Carrefour.
Quand vous me dites, dans mon téléphone, j'ai toute ma vie, mes applis, mes jeux, eh bien ça me donne envie de vous dire que c'est le mois des mois chez Carrefour. Et que pour fêter ça, chargez entre 15 et 250 euros sur votre carte cadeau Google Play et bénéficiez de 10% du montant chargé crédité sur votre carte Carrefour. Ah ouais, c'est ouf! Et c'est jusqu'au 23 septembre dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Détails sur carrefour.fr et sur votre carte cadeau Google Play.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue, c'est l'Intégral Foot et nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec une légende de la Ligue 1 à mes côtés pendant 2h. C'est Steve Savidan. Salut Steve.
Salut Ben.
Ça va, t'es en forme?
Super, tu sais, match de Ligue 1, samedi de Ligue 1, ouais. Donc... Ça commence pas trop mal cette journée.
Ah bah exactement. On est après l'OM et avant le PSG. Et il y a un match en cours. En plus, c'est la suite de la quatrième journée. Dans un instant, on prend la direction de l'Abbé Deschamps pour ce Auxerre Monaco qui a démarré. On se retrouve à Fred Joly pour l'instant 0-0 après 3 minutes. On rappelle la victoire de l'OM 2-0 face à Nice au Vélodrome. La première victoire de la saison Vélodrome. Marseille, leader provisoire du championnat. On débriefe ce match dans un instant. On vous attend au 32-16. On retournera au Vélodrome. Retrouvez Florent Germain. On vous présentera donc ce PSG-Brest à partir de 20h en direct du Parc des Princes avec Valentin Jamin et Jeannot Rességuier. On parlera également de Real Sociedad, Real Madrid, le retour de Mbappé en Espagne après une semaine agitée. On sera avec Edgar Groslot à partir de 19h45. Et puis l'autre temps fort, on y va dans un instant. C'est la remise des décorations à ceux qui nous ont fait vibrer, les athlètes médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La parade est en cours. La patrouille de France vient de passer 300 athlètes, 70 000 spectateurs. On y va tout de suite. C'est parti pour l'Intégral Foot. Le détour tout de même par l'Abbé Deschamps. Ce match est donc lancé entre Auxerre et Monaco. Salut Fred Joly.
Salut messieurs, bienvenue. Salut, à l'Abbé Deschamps. Avec 5 minutes de jeu, 0-0 et une belle tentative en Auxerrois. Un instant avec le centre de Joly qui a été détourné du bout des gants par Cohn, le portier monégasque. On avait subi au second poteau du côté de la Auxerre, mais la parade a finalement bénéficié au monégasque puisque le ballon a rebondi sur la tête de Sinayoko, ce qui a donné un renvoi aux 5,50 m. Les monégasques sont en possession du ballon et la JOCR là qui est vraiment rentrée bien comme il faut dans cette rencontre, ouais. Mettant d'entrée une pression sur cette équipe monégasque.
Ouais, qu'est-ce que tu attends de ce match toi Steve? Est-ce que tu veux
opposition de style, hein, opposition de style. Bah oui, on s'attend à une confirmation de Monaco après cette trêve internationale. Ils ont bien commencé quand même. Ils avaient quand même deux gros matchs quand même juste avant la trêve avec Lyon et puis Lens. 4 points sur 6, c'est pas déconnant. Et puis bah, et en face une équipe un peu remodelée, mais surtout un système de jeu que Pélissier a voulu faire évoluer. Et puis depuis le début du match, on les voit un peu plus quand même en attaque rapide. Ils sont très hauts sur le terrain, mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'en face t'as une équipe de Monaco, t'as quand même 2-3 joueurs voire 4, et on attend surtout entre Akliouche, Ben Seguir, Golovin, c'est très bon. Et puis bon, on attend que Mbolo un petit peu rentre dans sa saison, donc ouais. Et je regardais un petit peu, c'est aussi deux équipes qui ont été cartonnées en rouge depuis le début de la saison,
c'est vrai, c'est
une idée. Et je pense que c'est peut-être un fait de match qu'il va y avoir. C'est que s'ils n'arrivent pas à rester debout, ces deux équipes, ces deux défenseurs, leurs défenseurs, pardon, ça peut être un tournant de match.
Bon, le premier événement de cette journée, on l'a dit, c'est donc la victoire de l'OM face à Nice au Vélodrome. Victoire 2-0, les buteurs Mopé et Luis Enrique. Là aussi, il a été question de carton rouge. Quel but, ouais, inscrit par Luis Enrique. Cornelius a pris deux cartons jaunes en 2 minutes. Retrouvons Florent Germain dans les coursives du Vélodrome. Salut Flo!
Salut, je suis même resté en tribune, messieurs, parce que le temps était, le délai était court, ouais. Pour vous retrouver en bas et en salle de conférence de presse. Et surtout, je voulais observer aussi le tour d'honneur des joueurs marseillais qui sont pour certains encore sur la pelouse, notamment Nil Mopé avec l'un de ses enfants. Ils ont pris le temps de savourer au pied du virage sud parce que les ultras ont fêté de manière exubérante forcément leur 40e anniversaire avec des fumigènes, d'artifice, etc. Il y a eu un tour d'honneur jusqu'au virage nord où les MTP également, pas de jaloux, fêtaient leur 30 ans. Donc voilà, ambiance festive jusqu'au bout après cette victoire 2-0 des Marseillais.
Le but monégasque. Oh, il est venu d'un corner tiré par Camara au premier poteau. Alors c'était touché par un monégasque, c'est sûr. On peut dire que Léon est passé, on dira pas à travers, mais son intervention n'est vraiment pas exceptionnelle. Le ballon lui tape dans le tibia pour finalement entrer tombé dans le but.
Léon a coulé.
Ah, Léon, il avait, franchement, déjà, il nous avait offert une belle. Oh là, oui. Une belle parade quand pot de saucisson contre Nantes permettant à Nantes d'ouvrir le score à la Beaujoire.
Il a fait une manchette de volée mais dans son but.
Ah ouais, mais là c'est
tête de Kerrer. Mais je pense que le but sera accordé à Kerrer. Mais ouais, énorme faute demain de Donovan.
Ah, oh, Donovan Léon, il se trouve complètement. Ah ouais. Déjà à Nantes sur le premier but nantais, il y a une frappe qui n'est pas franchement dangereuse. Mmh. Et hop, il met pot de saucisson, boum, c'est au fond du but. Et là la même chose, Léon, il est beaucoup critiqué. On peut comprendre. En Ligue 2, il a fait des bonnes choses. Il a aidé la Gia à remonter en Ligue 1, mais en Ligue 1. Mais en tous les cas, en Ligue 1, on sent que Léon il a un petit peu de mal tout de même, ouais, sur ce corner. Hein, franchement,
la prise de balle. C'est un joueur de volet. C'est un joueur de volet.
Un joueur de volet, il la remet de l'autre côté. Quoi. Lui, il la met dans son but.
Et on y revient dans un instant. On profite juste de la présence de Flo Germain. Flo, bel après-midi pour l'OM. On fêtait les 125 ans du club. Et donc, cette première victoire à domicile, elle était attendue. Et le soulagement est rapidement venu. Donc, ça s'enclenche bien. Et le début de saison est couronné par ce succès. Hein.
Oui, c'est un Marseille qui a été un peu en difficulté sur la première demi-heure. Bon, ils avaient quand même la maîtrise du jeu, et ce but de Nil Mopé à 5 minutes de la mi-temps les a totalement libérés. Ça a débloqué la rencontre et après ça a accentué encore plus ce sentiment de maîtrise, de gestion des Olympiens. Vous avez parlé du deuxième but magnifique de Luis Enrique, mais c'est vrai qu'il y a quelques enseignements intéressants. Bon, la confirmation, même si le début de saison, la saison ne fait que commencer, qu'il y a un patron, c'est Pierre Emile Heubière, hein, ouais, qui vraiment est dans tous les bons coups au milieu de terrain, toujours très propre. C'est pas forcément spectaculaire, il va pas dribbler 5 joueurs et mettre une frappe en pleine lucarne, quoi qu'il a une bonne frappe, mais qu'est-ce qu'il est précieux dans le jeu simple, la récupération du ballon toujours bien placée. L'autre enseignement intéressant aussi, c'est la titularisation, et c'est la première fois depuis sa blessure le 4 novembre dernier de Valentin Rongier, ouais, donc titulaire, lancé à un poste qui pourrait être le sien cette saison, à savoir latéral droit, qui effectivement va jouer un peu dans l'axe quand il sera de retour, ça sera quasiment ailier. Donc on a vu un Valentin Rongier plutôt solide, très appliqué à ce poste-là. Et puis bon, un petit peu de réussite pour Roulis, ça fait pas de mal. Et Mopé, Nil Mopé, est-ce que la question se pose? Bah oui, je veux bien la poser. C'est vrai qu'Eli Wahi était sur le banc à cause de soucis musculaires, mais on a vu vraiment un joueur un peu renardé surface sur son but à la 40e de la tête, et puis surtout très actif, très précieux dans le jeu de haut but, donc ça peut être un problème de riche pour Roberto De Zerbi, même si je pense que il va pas tout de suite bousculer la hiérarchie avec un Eli Wahi s'il est à 100%, peut-être encore titulaire dans son esprit, mais ce sera l'un des dossiers de la semaine avant le match à Lyon dimanche prochain.
Mais ça prouve qu'il y a de la densité dans cet effectif. Flo, on te laisse repartir et aller aux réactions, et on passera les meilleurs moments d'ailleurs de la conf d'après-match de Roberto De Zerbi, Marseille leader provisoire de Ligue 1. Steve,
ciao, bonne soirée les amis, ciao.
Oui, bah comme on le disait, c'est que au vu du match Wahi, plus les matchs passent et plus les minutes s'égrènent, il perd un peu sa titularisation, il perd son leadership, même si je trouve que voilà, il a perdu de ce qui faisait son essentiel depuis qu'il était arrivé à Lens. Je le trouvais en baisse dans ses statistiques, dans son jeu, dans son engagement de numéro 9. Et depuis qu'il est arrivé à Marseille, il n'a pas réellement convaincu quand même depuis le début de la saison. Maintenant, il ne profite pas justement de cette trêve internationale qui derrière amène 10 jours. Il y a un match à la maison, tu perds des points encore une fois.
Et on y revient dans un instant. On vous attend, supporters marseillais, au 32-16. Analyser cette victoire et donc ce beau bilan, hein, après 4 journées. On l'a dit, 10 points pris sur 12 possibles. Marseille est leader provisoire. 19h11, vous écoutez RMC. Je rappelle que Monaco mène 1-0 à Auxerre, le but de Thilo Kehrer. On retrouvera Fred Joly dans une seconde. Mais l'événement de la journée, c'est donc ce sont les héros des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui sont honorés, célébrés au pied de l'Arc de Triomphe, sur l'avenue des Champs-Élysées, avec un moment important. On va retrouver Clément Brossard qui est avec nous. Salut Clément.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Parce que c'est le début de la remise des décorations, notamment avec le président de la République qui est là. On a beaucoup de médaillés et même la patrouille de France qui est dans le ciel de Paris. Hein.
Exactement, la patrouille de France qui est passée deux fois au-dessus de l'Arc de Triomphe. C'était sublime, évidemment, les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, avec même des athlètes émerveillés. On a vu Charline Picon tendre son téléphone et nous regarder tous en disant « Regardez ma photo comme elle est parfaite !» Donc même les athlètes et les para-athlètes, franchement, sont au taquet sur cette cérémonie. Et là, on vient d'avoir la première salve de remise de médailles républicaines, parce qu'il y en aura sept dans cette soirée. Et je n'ose pas imaginer ce qui peut se passer dans la tête de Félix Lebrun, ouais, qui était face au président de la République, Emmanuel Macron, et le président de la République lui dit: Monsieur Félix Lebrun, je vous fais chevalier de l'Ordre National du Mérite. Ça doit être dingue pour lui, franchement, de ressentir ça avec cette foule derrière qui s'embrase, évidemment, et qui pousse derrière Félix. Alors, ils étaient 28 athlètes et para-athlètes décorés sur cette première salve. Il y en aura 7, donc, avant de voir un autre moment fort de la soirée. C'est la vasque s'envoler dans le ciel de Paris. Tout est parfait, franchement, aujourd'hui, pour mettre une dernière parenthèse à ce qu'on vient de vivre. Et c'était merveilleux. Félix Lebrun qui descend de cette grande scène 360 degrés autour de l'Arc de Triomphe en faisant des cœurs au public, et en même temps on a tous les athlètes qui défilent, les para-athlètes aussi. On a Alexis Anquincan qui est en bout de ligne là, qui dans quelques minutes sera à notre micro pour nous dire ce qu'il peut ressentir. Donc voilà, la fête est totale sur les Champs-Élysées depuis le début de l'après-midi.
Merci Clément, on revient rapidement. Félix Lebrun qui vient de fêter ses 18 ans, il a eu 18 ans il y a deux jours, et là il est au pied de l'Arc de Triomphe et reçoit donc la décoration des mains du président de la République. Magnifique image qu'on vous raconte.
Alexis Anquincan qui arrive avec nous, si tu veux, Benoît.
Ah bah vas-y Alexis. Alexis Anquincan, champion paralympique de triathlon.
Alexis, on est en direct sur RMC. La journée que vous venez de vivre, elle était absolument dingue. Vous avez défilé sur la plus belle avenue du monde. C'est quoi le ressenti en tant que porte-drapeau, s'il vous plaît, monsieur?
Ouais, alors j'avais pas le drapeau aujourd'hui, mais n'empêche que ça a autant vibré que cette cérémonie d'ouverture. Non, les Champs-Élysées, voilà, c'est iconique. Il y avait noir de monde. Et voilà, cette équipe de France olympique, paralympique réunie, voilà, ça cloue un magnifique épisode de Paris 2024. Il y a forcément de la nostalgie, mais beaucoup de joie, et ça fait plaisir de finir comme ça, en fait.
On a vu tous les Français débarquer là sur les Champs-Élysées pour vous fêter encore une dernière fois. On n'a pas envie que ça se termine, le public n'a pas envie que ça se termine, vous non plus, j'imagine.
Ouais, alors on n'a pas envie que ça se termine, mais voilà, il faut être cohérent, et là c'est la fin. Mais là où j'invite tous les Français, c'est maintenant à se réveiller, parce que Paris se termine, mais les championnats d'Europe et les championnats du monde vont continuer. Les athlètes, les para-athlètes vont continuer à s'entraîner et à faire des compétitions. Donc voilà, je pense que vous, médias, maintenant, il va falloir relayer aussi les informations. Voilà, les compétitions vont perdurer, et c'est ça aussi la magie du sport. Les Jeux, c'est super, mais c'est tous les 4 ans, et tous les ans, il y a d'autres compétitions à suivre.
La fête, elle n'est pas finie, il faut en profiter jusqu'au bout, là. C'est ce qui va se passer ensuite.
Ouais, il y a la petite décoration, il y a le concert ce soir, mais bon, il y a mon rôle de papa qui va reprendre le relais, parce que demain matin, je dois courir avec ma fille à l'école, donc voilà, on va pas rentrer très tard.
Ouais, tu connais ça toi, Benoît, aussi hein, le rôle de papa, donc voilà, personne n'y échappe, allez, au cancan. Donc évidemment, elle sourit aux lèvres pour cette journée merveilleuse.
Et n'hésite pas, tu nous interromps dès que tu as d'autres champions à ton micro. Magnifique moment qu'on est en train de vivre. On veut pas que ça s'arrête, Steve. On est un peu triste de se dire que cette fois c'est la fin et que.
Ouais, mais comme un champion vient de le dire, un immense champion. Paris 2024 a été extraordinaire dans ces deux très grosses compétitions. Et paralympique, bien sûr. Maintenant, comme on le sait toujours, il y a des compétitions tout le temps, et il vient de le dire. Force à nous aussi de relayer, même en tant qu'ancien sportif, de relayer justement toutes ces compétitions et ces paracompétitions, si on peut dire, avec tous ces athlètes.
Exactement, et on continue de nous faire vivre toute cette
soirée. Il a mis la pression.
Ah bah oui, mais il a raison.
Il a raison.
Rôle aussi de porte-drapeau paralympique, et en plus il a assuré, parce qu'il est allé chercher en plus la médaille d'or dans sa discipline, le triathlon. 19h16 sur RMC. Supporters marseillais, on arrive dans un instant pour le débrief de Marseille-Nice, la victoire marseillaise 2-0. Détour tout de même par l'Abbé Deschamps, Fred Joly, le temps, le score et la tendance entre Auxerre et Monaco, s'il te plaît.
16 minutes 30 secondes, l'AS Monaco mène 1-0 avec ce but inscrit par Kerrer. Une faute de main de Léon. Les Auxerrois tentent de réagir, mais c'est vrai que déjà que ce début de championnat est compliqué pour eux. Si en plus ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, et ça va pas arranger les choses des hommes de Christophe Pélissier qui courent après le score face à Monaco.
La suite de ce match dans un instant, l'analyse de Steve Savidan après la victoire de l'OM. On vous attend, supporters marseillais et niçois, composé le 32-16. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h22 sur RMC l'Intégral Foot avec Steve Savidan jusqu'à 21h. Vous êtes avec nous, vous avez raison, parce que là on se régale avec la suite de la quatrième journée de Ligue 1. On analyse la victoire de Marseille contre Nice 2-0 cet après-midi. Supporters marseillais, niçois, on vous attend en 32-16. Je vois Valentin qui patiente. Et puis le match en direct, c'est Auxerre-Monaco, Fred Joly.
22 minutes de jeu. L'AS Monaco mène 1-0, mais les Monégas sont en train vraiment de prendre la main sur cette rencontre. À l'image de cette dernière occasion, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les garçons, il y a eu ce débordement, ce bon centre pour Mbolo qui a mis la tête. Bon, le ballon a été contré, il est sorti. Mais on sent vraiment que Monaco, les Monégas sont en train de s'installer et de dominer tranquillement cette rencontre. Ils mènent au score. Évidemment, dans la tête, ils sont un peu plus mieux, un peu plus sereins que les Auxerrois qui courent après le score.
C'est vrai, Steve, on sent une différence de niveau entre les deux équipes pour le moment.
Ouais, on sent une différence de niveau. Ils n'ont pas du tout la même approche tactique dans le jeu. Et puis, moi, je vois deux attaquants qui sont un peu dans le dur. Donc, Mbolo, là, sur cette dernière occasion, bon, je trouve qu'il domine pas du tout son adversaire. Et tout à l'heure, bon, j'étais, je suis pas au stade, mais quand je revois le ralenti, ce que je me le suis regardé, c'est Sinayoko là. Il a une occasion de frapper en demi-volée. Tu vois un petit peu quand il est dans la surface, et là il veut faire encore un crochet.
Moi, non, mais il doit jouer en première intention. T'as raison.
Il doit mettre en danger le. Ouais. Ben oui, carrément. Et donc c'est un peu la différence, c'est que ils ont une belle maîtrise, hein, au cerf. Mais ils se font piquer à chaque fois par la qualité technique des joueurs offensifs monégasques. Et ça les met en danger. Et pourtant, ils ont un système à 5.
Ouais,
donc
c'est ça.
Ouais, j'arrive pas à voir les deux pistons revenir et à fond, quoi. Donc toi, encore sur cette dernière occasion, pareil. Bon, c'est une tête, et au deuxième poteau, tu maîtrises pas ton jeu de tête, parce que là, t'es carrément sorti du cadre. Tu dois rester sur tes appuis et jouer la remise dans l'axe. Il y a du monde, tu vois, pour Auxerre. Donc je pense que s'il n'y a pas une réaction, en tout cas de Auxerre, ça va être difficile pour eux de maîtriser ce match, honnêtement.
Il y a un vrai sujet, de façon, un problème offensif à Auxerre. Les attaquants ne marquent pas depuis le début de saison et ça peut poser problème si.
Quand tu as une équipe qui monte, si tu n'es pas dans la dynamique sur le premier match.
Hop, et 2-2. Comme à l'entraînement, hein, vraiment. Ils sont complètement à la rue, là, les défenseurs auxerrois. Il a le temps de contrôler, se mettre sur le pied, le plat du pied, c'est tranquillement. Bon, Léon, il n'y prend rien sur ce coup-là. Mais ça n'empêche que.
Anderson, magnifique.
Monaco mène maintenant 2-0, effectivement, avec ce contrôle. Il est super, hein, franchement, ce qu'il a fait. Vanderson, il contrôle tranquillement. On a Vanderson qui a un latéral droit qui se trouve carrément avant-centre sur cette occasion. On sent que au niveau du placement tactique de la Géossard, il y a un problème. On est 5 derrière, mais il y a vraiment des espaces que Christophe Pélissier craignait. Eh bien, continue de se produire avec une nouvelle fois des errances défensives qui profitent à l'AS Monaco.
Et puis laisser Zakaria comme ça dans le milieu de terrain.
Il se bat. Alors,
en plus, il
a tout le temps.
En plus, il est bon techniquement.
Ouais.
Et tu l'agresses même pas à la portée de balle. Et à un moment donné, il fait un contrôle orienté là entre deux joueurs. T'es à 40 mètres de ton but. Il faut que tu sois agressif. Il faut que tu viennes le tamponner dans le dos. Il faut que tu le fasses reculer. Parce que le problème, c'est qu'il joue en plus. Monaco joue sur un rythme tranquille.
Bon. Ça fait 2-0 pour Monaco à Auxerre après seulement 25 minutes de jeu et la logique est respectée parce que pour l'instant Monaco marche sur cette équipe de la GIA. On espère que ça.
J'ai envie de dire Ben, je suis désolé, c'est pas une question de logique, c'est une question. T'as une équipe en face de toi, Auxerre, qui viennent de monter, qui sont montés avec des réelles valeurs et là tu les vois depuis le début du championnat. Ils ont même pas ces valeurs courage dans l'absolu. T'as le droit de pas être bon techniquement à la hauteur. Mais là, tu dois avoir de l'envie, en tout cas, de préserver ton but.
Parlons de l'OM. C'est la bonne opération de l'après-midi. Marseille est leader provisoire de Ligue 1. Victoire 2-0 contre Nice. Parlons-en avec Valentin, supporter marseillais qui a composé le 32-16. Salut Valentin.
Salut, bonsoir. J'espère que vous allez bien.
Et toi?
Salut,
alors
Valentin. Très bien.
125 ans du club. Victoire 2-0 face à un des plus grands rivaux du championnat, l'OGC Nice. Bah, tout va bien.
Franchement, c'est une victoire très importante parce que c'est le premier grand rendez-vous, vraiment. Effectivement, il y avait Brest, mais bon, Brest avait des choses à mettre en place d'abord. Mais une victoire contre une bonne équipe de Nice qui a bien mis la pression. Ensuite, deuxième point, on ne s'est pas mangé de but. Très, très important.
C'est vrai, t'as raison.
Très, très important. Ouais. Ensuite, gagner aussi au Vélodrome pour surtout les nouveaux qui découvrent c'est quoi gagner au Vélodrome. Et je pense que ça va être très important pour la continuité. Après, il y a un match très important. Klose qui est plus chez nous, qui a fait un bon début de match, franchement, on peut le dire aussi. même s'il est plus chez nous, il a fait un bon début de match, mais les joueurs qu'on a recrutés ont fait le taf et je suis très très content, surtout Luis Enrique aussi, c'est un plaisir.
Ouais. C'est fou, hein. La métamorphose de Luis Enrique.
Parce qu'on la meilleure recrue, c'est le coach.
C'est le coach, oui, bien sûr, ça va.
Et en plus, je vais te dire un truc, moi, en fin de saison dernière, je validais pas tout de suite De Zerbi. Parce que, je le dis, je fais pas mandat honorable, hein, j'étais pas convaincu que, en tout cas, on signait un chèque en blanc en disant ça va absolument marcher parce que justement, Marseille, c'est particulier. Et là, on le voit, si tu gagnes pas aujourd'hui au Vélodrome contre Nice, c'est le feu direct.
En tout cas, c'est un coup d'arrêt, t'as raison.
C'est un coup d'arrêt. Donc en fait, de me dire que là, ils sont dans une mouvance super positive, il a réussi à transformer, à élever certains joueurs. Luis Enrique, Kondogbia, on les voit, les mecs, ils sont à l'aise à jouer, ils ont un volume de jeu. Je pense qu'ils sont vraiment bien physiquement. Je crois qu'ils sont vraiment bien physiquement. Quand tu vois un Rongier qui joue sur le côté gauche, quoi, qui joue latéral. Tu dis
côté
mais
droit,
ouais côté droit pardon ouais. Bah, tu dis mais c'est un coach qui va révolutionner certains joueurs hein.
Et puis Steve et Valentin, il y a deux faits de jeu qui vont ravir aussi De Zerbi et les supporters de l'OM. C'est que tu avais l'impression que tu avais une Greenwood dépendance. Greenwood a été un peu moins performant, oui, cet après-midi, et bien ça a été comblé par ses coéquipiers. Et exactement. Valentin, il y a Mopé, première titularisation pour lui aussi. Il met un vrai but d'attaquant, même s'il y a peut-être une erreur de la défense niçoise avec cette tête au milieu de la défense.
Il y a une défense.
La défense est en train de dormir, mais lui, il est là pour mettre le coup de casque et ouvrir le score, Valentin. Ça aussi, c'est important.
Oui, et c'est très important, et même pour Wai, parce que, encore une fois, Mopé, c'est sa concurrence directe. Et je pense qu'en tant que pour Wai, ça va le remettre en question et ça va le pousser à plus travailler. Et je pense que même des arbitres, le fait de le laisser sur le banc pendant 90 minutes, c'est vraiment pour que Wai réalise et ça va le rendre encore plus fort. Moi, j'ai confiance en Wai, même si beaucoup de personnes le critiquent. Moi j'ai confiance, je pense que l'attaque.
Non, Valentin, c'est pas qu'on le critique, c'est que simplement moi je fais aussi partie. Moi c'est un gamin que j'apprécie, que je côtoie assez souvent. Moi si tu veux, depuis qu'il est arrivé à Lens, je l'ai trouvé déjà un petit peu en dedans. Et là le fait qu'il arrive à Marseille, il arrive dans un très gros club avec une grosse pression, il arrive comme titulaire, il y a un gros transfert quand même pour l'OM et je me dis est-ce qu'il va être en capacité de se renouveler? Et on le voit depuis le début de la saison, il a fait des efforts, il n'a pas eu forcément tout le temps de la chance. Là, il y a cette petite gêne athlétique. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a ce côté... Là, en fait, tu n'es pas titulaire indiscutable. Il y a du monde à l'OM. C'est pas comme à Lens où, malheureusement, tu le faisais jouer tous les week-ends parce que tu n'avais pas le choix dans ton système de jeu. Alors que là, à Marseille, tu as du monde. Et en plus, il y a du monde qui est bon.
Qui est bon, exactement. Exactement, et c'est très important, et c'est ça qui nous manquait, je pense, l'année dernière à Marseille, un peu cette concurrence qui va pousser les joueurs à être meilleurs, à se donner à 100%, car avant, il n'y avait personne.
Valentin, il n'y a pas de secret. Dès que tu as une longueur de banc, ouais, avec des joueurs pas du même niveau, mais en tout cas, en termes de volonté, qui sont quand même pas très loin les uns des autres, parce qu'il y a un niveau titulaire et il y a un niveau, on va dire, second couteau ou super sub. Dès que tu as une longueur de banc, en plus, si les mecs qui sont prêts, ils sont investis dans un projet en se disant je fais pas la gueule parce que je suis sur le banc et je suis content quand je suis titulaire parce que je vais me donner à fond pour conserver ma place. Et puis il y a aussi la réflexion de Longoria de cette semaine. Soyez patient pour une fois parce que là on a un projet sur 3 ans. J'ai envie d'y croire aussi. Hein.
Et puis là, ça
c'est la première fois, je crois, que depuis qu'il est arrivé, qu'il dit vraiment qu'il y a un projet.
Et puis il y a déjà 10 points pris sur 12, donc Marseille réussit parfaitement son début de saison. Merci à Valentin qui est venu participer au débrief au 32-16. On va retourner à l'Arc de Triomphe parce qu'on a de belles images qui se multiplient, qui se succèdent. Clément Brossard, avec notamment les légendes paralympiques qui viennent d'être décorées. Clément. Hein.
Exactement, avec en tête de liste celle qui a ouvert presque le cortège des athlètes paralympiques et olympiques vers l'Arc de Triomphe. Eh bien, c'est à titre personnel, en tout cas moi, mon émotion de ces Jeux, je te le dis Benoît, c'est Aurélie Aubert, évidemment championne paralympique de Boccia, la première de l'histoire, qui a été nommée chevalier de l'Ordre National du Mérite par Emmanuel Macron. Séquence émotion évidemment, parce que Aurélie est sur son fauteuil devant la foule avec Claudine, son assistante de vie, et son assistante de jeu aussi à côté d'elle, qui l'a embrassée sur la tête. Et le regard entre Emmanuel Macron et Aurélie Aubert, vraiment, il y avait une intense émotion. Et puis à côté d'Aurélie Aubert, là aussi, c'était quelque chose de beau. C'est Frédéric Villeroux, notre Zizou du Cécifoot,
ah oui,
notre incroyable numéro 10 et capitaine, qui lui a été décoré par... qui d'autre que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Et là aussi, la collade était très sympa avec donc le coach des Bleus, sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui a mis une petite main dans le dos et sur la nuque de Frédéric Villeroux, qui lui a glissé quelques mots à l'oreille aussi. Et à l'instant même, Emmanuel Macron demande un petit peu plus de bruit de la foule, parce que devant lui, il a un autre homme, un autre grand monsieur, si ce n'est le grand monsieur de ces Jeux Olympiques, Léon Marchand, qui est devant lui, qui va lui aussi être décoré par le président de la République dans quelques instants.
Et pour une fois, la météo est au rendez-vous. Grand soleil sur ce début de soirée à Paris. Les athlètes sont récompensés. On voit beaucoup d'émotions. On revient dans un instant. On rappelle le temps et le score entre Auxerre et Monaco. Fred Joly.
32 minutes de jeu. L'AS Monaco mène 2-0. Kerrer et Van Der Son ont marqué pour l'AS Monaco.
Et on revient dans un instant. On est avec Steve Savidan jusqu'à 21h sur RMC. C'est l'intégral foot. On continuera le débrief de Marseille-Nice. Supporters niçois, on vous attend également pour débriefer le match de votre équipe, la défaite niçoise 2-0 au Vélodrome. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h37 sur RMC Intégral Foot jusqu'à 21h. Steve Savidan est là en ce samedi soir. C'est la suite de la quatrième journée de Ligue 1. Auxerre reçoit Monaco, Fred Joly.
37 minutes de jeu. Monaco mène 2-0. Il y a eu un corner à l'instant pour l'AS Monaco qui a été tiré une nouvelle fois par Camara, mais cette fois-ci bien dégagé par la défense auxerrois. Alors du côté d'Auxerre, on essaie de réagir. On a du mal à s'approcher, donc on frappe de loin. Ravelson, Sinayoko. Le problème, c'est un coup de mètre à gauche, un coup de 3 mètres au-dessus, un coup 4 mètres à côté. Donc c'est même pas cadré. Pour vous dire que c'est compliqué
trop,
quand même.
Trop petit les buts.
Ils ont mis des buts, je sais pas, de hockey, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais...
Ouais, et puis même les intentions, je les vois dans les dernières passes. Et pourtant, ils se préoccupent quand même certaines situations, mais sur les derniers passes, sur les derniers gestes, je trouve que.
C'est ça.
Oh, ça manque. Honnêtement, parce que Monaco, ils jouent vraiment sur un rythme, ils sont très tranquilles. Hein. Honnêtement.
Ils sont tranquilles, là, ils déroulent, les gars, franchement, ils sont pas fatigués.
Mais... Ouais, mais vrai, tu vois, regarde, il n'y a pas d'agressivité côté Auxerrois. Je sens qu'ils sont pas en jambes. Tu vois, même dans leur regard, il n'y a pas le côté. Toi, là, on est pratiquement à la 40e minute. Tu te dis, bah, déjà, si tu n'arrives pas à revenir, on va dire, avant la mi-temps, c'est compliqué. Donc, essayez de marquer au moins un but avant la fin.
Oh là là, voilà le troisième. Là, oh non,
ouais,
là,
bah, ouais, cherche pas.
Non, c'était chaud. Franchement, l'occasion était belle. La frappe de Ben Seguir a été détournée et arrêtée cette fois-ci par Léon, qui a été parfait dans dans sa parade, là, il faut le dire. Et en tous les cas, on voit l'AS Monaco. Ils laissent venir dès qu'ils ont envie d'accélérer. Ils accélèrent et ils mettent la JOCR en difficulté, ce qui n'est pas le cas des Auxerrois qui ont vraiment du mal à mettre le portier monégasque en difficulté avec un nouveau débordement monégasque. Oh la tête, heureusement qu'il était là pour dégager. Il y avait, Golovin qui était pas loin. Et qui a manqué quelques centimètres. Tu l'as parfaitement résumé, Steve. C'est que du côté de Monaco, dès qu'on a envie d'accélérer, on bouscule cette équipe aux Auxerrois, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens.
Fred,
et en plus, honnêtement, il joue à 10 depuis le début, Monaco, parce que je trouve que Mbolo, il est vraiment pas du tout dans le bon timing de son équipe. Alors, à part là, un petit peu sur cette dernière passe, mais je le trouve. Pas assez percutant, il attend trop de ballons.
Il a mis une tête, enfin un semblant de tête il y a quelques minutes qui est passé.
J'espère qu'il va faire démentir.
Ouais, c'est ça. Bon. C'est souvent
je ne trouve pas en tempo pour un numéro 9.
Ouais, franchement, il a un petit peu de mal, même si là, il a bien combiné, hein, c'est sûr. Mais bon, il n'est pas percutant, il n'est pas comme tout le monde.
En plus, il y a un truc qui est génial. Quand tu es neuf comme ça, tout seul devant, tu joues, tu sais, quand il y a une défense à 3 à côté de toi, si tu arrives à te balader un petit peu entre chaque défenseur,
partout, tu mets
ils n'arrivent pas à te gérer. C'est un truc qui est génial. Parce que là, on voit même sur la dernière passe qu'il fait. À la limite, il peut faire intention de passe, mais par contre, il fait un crochet, il est tout seul dans la surface parce que le défenseur avait anticipé la passe presque.
Exactement. 2-0 pour Monaco à Auxerre. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première période. On rappelle ce qui se passe en ce moment au pied de l'Arc de Triomphe avec cette scène circulaire magnifique. Les médaillés olympiques et paralympiques sont honorés. Ils reçoivent leur décoration. On peut vous dire que Antoine Dupont est justement juste devant le président de la République, Emmanuel Macron. Il va recevoir sa décoration d'ici quelques secondes. Image magnifique. Clément Brossard est au pied du podium. Il nous appelle dès qu'il a un invité avec lui. On continue de débriefer ce Marseille-Nice. La victoire marseillaise 2-0. On a Adil, supporter niçois, qui a composé le 32-16. Salut Adil.
Bonsoir l'équipe.
Bon. Salut Adil.
Adil, c'était un rendez-vous important pour les deux clubs, donc pour Nice également. Malheureusement, Nice n'a pas su aller chercher au moins un point au Vélodrome ce soir.
Au moins un point, vous êtes gentil, hein, parce que franchement, cet OM-là qui est leader, quand on regarde le match avec cette physionomie, mais la question que je me pose, c'est comment on fait pour ne pas prendre les trois points.
Ah, c'est un scénario où il y a exactement beaucoup de réussite pour l'OM, c'est vrai.
Non, sincèrement, un OM qui était en attente, là, qui jouait en contre, qui n'a franchement rien prouvé, Et puis bye. Nous, on a une inefficacité chronique dans les deux surfaces, dans les zones de vérité. Derrière, dès qu'il y a une action tranchante, c'était plus de but. L'année dernière, en fait, on était une muraille. Et puis devant, mais franchement, devant, mais comment on fait à rater autant d'occasions? Tu rajoutes à ça la malchance, hein, les poteaux, allez, une ou deux petites erreurs d'arbitrage avec un pénalty flagrant. Et voilà, tu as les ingrédients d'une très mauvaise soirée pour les supporters niçois qui n'ont pas pu faire des passants.
Adil, tu vois, moi je pense que ce qui allait plus te rendre fou, c'est l'ouverture du score marseillaise avec l'apathie de la défense niçoise. Quoi. Ah, tu vois, tout le monde dort et là, Mopé, qui est le plus petit, arrive à mettre une tête et ouvrir le score.
Eh bien, moi je ne suis pas convaincu. Autant j'aime bien Aise, mais je ne suis pas convaincu par le système qu'il a mis en place derrière.
À 3 ?
Non. Non pas le système à 3, mais le choix des joueurs. Parce que Dante, positionné défenseur gauche, moyennement axe convaincu. Gauche, ouais. Youssouf, qui est, je crois que c'est plus rapide que lui, derrière en au centre.
Mais Adil, tu as complètement raison, parce que tu sais, quand j'ai vu ce système-là, je pensais qu'au départ, Aiz, il voulait le faire en fait pour Dante, en fait.
Bah oui,
et mettre plutôt Dante, justement, avec son expérience en tant que libéro, tu vois, à la place de stopper et de joueur de couverture. Mm. Bah, moi, je me dis, mais en fait, mets ton joueur qui a le plus, un petit peu d'âge quand même, le plus d'expérience, justement, en tant que libéro, parce que juste, c'est lui qui doit driver sa défense, justement.
Et un excellent jeu de tête, par ailleurs.
En plus.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas convaincu par le choix des hommes. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Dante est sorti. Ça faisait une éternité que ça n'était plus arrivé. J'ai trouvé l'entrée d'Ali Abdi très très intéressante.
Ouais,
certes, ça va lui donner des idées pour la suite du championnat, mais en tout cas, avec cette configuration-là.
De toute façon, Adil, on va parler d'un sujet. Dante, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il peut être au taquet, franchement, super fit, super prêt, avoir énormément d'expérience. Sauf que tu te confrontes à une certaine réalité à un moment donné. Bon, c'est l'âge.
Ans, Dante, ouais.
C'est, ouais. Tu te retrouves en plus, t'as un poste crucial. Et t'es un peu moins en réussite.
Ce qu'on va faire, on va retourner à l'Arc de Triomphe parce qu'il y a un moment fort qui arrive. Les rugbyman médaillés olympiques, le rugby à 7 avec la Corée qui va être répétée justement devant le public parisien, Clément Brossard.
On n'a pas le AK, mais on a la Corée, nous, chez les Français. C'est tout comme avec ce public qui l'a demandé, hein, qui est venu la chercher vraiment au moment de la décoration d'Antoine Dupont. Le public a demandé la Corée. Ils se sont tous mis en ligne avec Stéphane Parez, avec Paul Riva également, qui a demandé l'encouragement du public. Et ils viennent de faire 3-4 pas dans la discrétion, assez timidement, mais ils l'ont pas fait mal. Quand même, la Corée sur l'Arc de Triomphe. Ouais. C'est quand même sympathique de la part des rugbymen à 7, évidemment. Alors, à l'applaudimètre, je ne sais pas encore qui a gagné entre Antoine Dupont et Léon Marchand. Ça se joue entre les deux, mais il y en a peut-être un grand monsieur qui va remporter l'applaudimètre.
Est-ce que Riner va pas mettre tout le monde d'accord? Il sera récompensé seul.
Déjà, il sera tout seul.
Et ouais, parce que la récompense, on peut le raconter d'ailleurs, Clément, là. La décoration qui va être décrochée par Teddy Riner sera plus élevée que tous les autres athlètes olympiques et paralympiques.
Le grade est plus élevé. Au nombre de médailles d'or, évidemment, il sera plus élevé. Donc, on gagne des grades à chaque fois en termes de décoration républicaine. Et lui, il sera quasiment tout en haut, Teddy Riner. Et pour ceux qui avaient eu une médaille d'or avant et qui ont reçu une médaille d'argent, eh bien, ils n'ont pas été célébrés, décorés, parce que, évidemment, leur exploit est moins important que ce qu'ils ont déjà fait. Donc, il y a toute une hiérarchie sur l'ordre du mérite que décernent Emmanuel Macron et les autres personnes présentes ici. Et évidemment, Brigitte Macron, la première dame aussi, il y a M. Bernier, le Premier ministre, Tony Estanguet, Didier Deschamps aussi, qui remet des distinctions. On a évidemment Youri Djourkaeff, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est au tour d'Alexis en quinquant, notamment d'être décoré par Emmanuel Macron dans quelques instants, avec Lucas Mazur aussi présent, parabadiste. On a Alex Léauté pour la dernière salve. Bon. Et ensuite, ce sera Teddy Riner. Seul.
Et on arrive rapidement, Teddy Riner qui va être promu commandeur de l'ordre du mérite après sa nouvelle médaille d'or, décroché deux médailles d'or pour Teddy Riner sur ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On remercie Adil qui est venu débriefer le match des Niçois avec nous au 32-16. Nice qui affrontera Saint-Etienne lors de la prochaine journée, et on va retourner à la Baie des Champs parce qu'on est rentré dans le temps additionnel de la première période, Fred Joly.
Il y aura 4 minutes de temps additionnel alors qu'il y a un Monégasque au sol qui a pris un petit coup. 4 minutes.
Toujours le même.
Ouais,
je crois. Il prend des coups lui.
C'est Camara encore qui a pris un coup, non? Ce Camara tout à l'heure a pris une...
C'est Akliouch. Akliouch, il en prend des coups. Hein.
Il a pris un bon coup de la part de Jouba. Alors ça paraissait involontaire, hein, mais en tous les cas, il a pris une petite semelle. Bon, ça va, il s'est relevé. Il a pu retrouver sa place. La JOCR menée 2-0. Alors, on espère que du côté de Christophe Pélissier, on va peut-être se décider à faire rentrer des garçons comme Aïe, Baird ou encore Onaewu. Des
ou garçons. Peut-être changer de système.
Ouais, et puis par se mettre des garçons qui sont faits pour jouer devant le but, quoi. Parce que Perrin, il est bien gentil, mais c'est pas un avant-centre. Sinayoko, il est bien en soutien, il est bien dans le couloir gauche, mais en pointe, parfois, il est un peu brouillon. Puis tu le disais, hein, tout à l'heure, il avait une belle occasion. Le coup franc joué, ça va être la frappe. Elle va revenir sur le côté. C'est quand même assez du grand n'importe quoi. Hein, franchement, du côté de Monaco, il manque pas grand chose pour que le troisième but soit marqué. Hein. On l'a vu avec cette frappe de Golovin qui a été contrée, repris par un autre Monégas qui est passé juste au-dessus. Ouais, on disait, Steve, qu'il faudrait peut-être mettre des garçons qui, devant le but, peuvent amener des solutions quand même.
Je crois que Christophe, il a voulu adopter une tactique pour cette première mi-temps. Christophe Pélissier, de vouloir.
On avait compris.
Ouais, de faire un 0-0 pour la première mi-temps. Honnêtement, je pense que c'est ce qu'il a voulu dans son système de jeu et travailler sur l'énergie de sa deuxième mi-temps. Mais là, c'est un peu le bordel, là, je pense, par rapport à la tactique, parce que ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Je crois que ces joueurs, c'est pas qu'ils n'ont pas répondu présent, mais ils ont voulu faire plus que ce que leur système leur demandait presque.
Ouais.
Parce qu'avec un système comme tu as, t'es pratiquement pas dans la maîtrise du jeu collectif. Tu devrais la laisser à Monaco et attendre. Alors que là, t'as voulu faire la maîtrise du jeu et tu t'es fait à chaque fois avoir par des coups de boutoir, des attaques rapides de Monaco. Et en plus, il y a pratiquement. Et honnêtement, ils ont 50% de réussite. Ils ont même pas du 100%.
Et du côté de ça,
c'est plus lourd.
Tu parlais tout à l'heure des latéraux. Autant Joly fait beaucoup d'efforts hein, sur le côté droit. Avec Akpa, c'est pas Mensah à gauche. Hein. Mensah, il s'est vraiment percuté, débordé, centré. Et que Akpa, lorsqu'il se retrouve avec le ballon sur le côté, bien souvent, il a du mal à faire la différence.
Et faudra pas oublier, hein, t'as quand même deux défenseurs centraux presque qui sont cartonnés déjà. Hein.
Ouais.
Toi, tout à l'heure, on parlait des rouges. Faudrait faire attention en deuxième mi-temps à pas se faire avoir. Hein.
Exactement.
Parce que là, t'as que Mbolo qui est arrivé. Mais si tu lui fais rentrer derrière un petit Balogun qui va prendre de la vitesse, toi, tu vas être un petit peu à la rue. Moi, je te dis, j'en suis sûr que ça va se jouer avec un rouge encore cette histoire.
Ah, c'est possible. Hein. C'est vraiment possible que les Auxerrois, peut-être pas rouge direct, mais
parce que Jubéal, là, c'est limite Jubal, d'un rouge tout à l'heure.
Ouais, tout à l'heure, j'ai pensé qu'il allait prendre rouge hein, parce qu'il est arrivé de mon cœur. Bon, tout de suite, il a dit j'ai fait faute. Ouais. Mais bon.
en revanche, les gars, le scénario est parfait pour Monaco qui entamera la Ligue des Champions première depuis 6 ans pour les Monégasques face à Barcelone la semaine prochaine. Là, c'est le scénario idéal, hein, Steve. Hein.
Là, t'es nickel. Là, t'es nickel. Franchement, tu forces pas des masses. Honnêtement, tu t'es pas vraiment inquiété, hein. Même en termes d'agressivité. Bon, il y a que Akliouche qui commence à prendre un petit peu des coups. Je crois que comment il s'appelle, Uther. Je serais pas étonné qu'il mette un petit peu, qu'il fasse tourner, parce qu'il commence à prendre pas mal de coups. Ouais. Et justement, en plus, il a les moyens. Donc, toi, tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure avec Valentin, je crois, supporter de Marseille.
Exactement.
Dès que tu commences à avoir une longueur de banc qui est cohérente avec tes titulaires, franchement, ça ressemble à quelque chose. Mmh. Marseille, c'est le cas. Monaco, c'est le cas. T'as des joueurs sur le banc.
Et Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe en plus.
Et en plus, Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe.
Mmh. Les dernières secondes, Fred.
Il reste vraiment quelques secondes. Hein. On est la fin de ce temps additionnel avec cette balle en cloche par-dessus vers Golovin, tranquillement de la poitrine. Fred. Il revient derrière. Là, on fait tourner le ballon.
Tu sais ce qu'on fait, Fred. Tu nous confirmes la mi-temps dans un instant, mais le moment fort à l'Arc de Triomphe avec la montée de Teddy Riner sur le podium et le salut au président de la République Emmanuel Macron, Clément Brossard.
Exactement, Teddy Riner qui est donc sur le podium de l'Arc de Triomphe. On a vu Alexis Anquincon partir avec le titre d'officier de la Légion d'honneur. Et bien là, c'est un grade au-dessus. Grâce à tous ces titres remportés au nom de la France, Teddy Riner est fait commandeur de la Légion d'honneur. Donc pour cet énorme palmarès, il avait déjà obtenu les titres de chevalier en 2013 et d'officier en 2021. Le voilà commandeur donc en 2024. Face à face entre les deux hommes, Teddy Riner et Emmanuel Macron, le président de la République.
Il lui a fait sonner de cravate, c'est énorme.
Oui, alors on en parlait un petit peu dans l'après-midi.
dans l'après-midi, on en parlait parce qu'il est passé devant nous, Teddy Riner, il avait du mal à fermer son dernier bouton de chemise. Il est gainé comme jamais dans sa chemise.
Temps, il faut un sac.
Et donc le nœud de cravate,
chemise, hein, ça c'est sûr.
Refait par Emmanuel Macron. Il reçoit la poignée de main de Anne Hidalgo, la maire de Paris, celle de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, donc. Et il va se diriger aux côtés d'Emmanuel Macron. Je te propose peut-être de rester, Benoît.
Bien sûr qu'on va rester. Juste en un mot, je confirme avec Fred Joly, c'est la mi-temps, Fred, ça y est.
Exactement, 2-0, Kerrer et Wanderson. Moi aussi, j'ai des problèmes de chemise, mais c'est mon ventre.
Ok, merci Fred, à tout à l'heure. Bah, doucement sur le buffet de la mi-temps, alors. Retour à l'Arc de Triomphe avec la médaille qui va arriver pour Teddy Riner. Il a l'habitude, mais ce moment est forcément particulier, Clément Brossard.
L'acclamation ici à l'Arc de Triomphe, évidemment, sur cette place de l'Étoile, avec Emmanuel Macron qui demande à Teddy Riner de se mettre face à la foule. Il est ovationné, évidemment, tous les téléphones sont sortis pour vivre ce moment d'histoire.
Teddy Riner,
Emmanuel Macron.
Au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de l'Ordre National du Mérite.
La décoration ultime pour Teddy Riner, commandeur de l'Ordre National du Mérite, après sa Légion d'honneur, après avoir été officier, le voilà tout en haut, il est déjà sur le plan sportif, il est désormais en termes de récompense, la bise d'Emmanuel Macron à ce géant qui est Teddy Riner, ce géant du sport français, et nouvelle salve d'applaudissements désormais pour celui qui rentre à jamais, il était déjà tout en haut du palmarès de l'équipe de France, le petit geste sur la médaille en disant ah, elle est pas mal celle-ci, elle va venir garnir une sacrée collection. Teddy Riner, donc commandeur de la Légion d'honneur.
Quelle histoire, c'est lui qui avait allumé la vasque avec Marie-Josée Perret, qui est ensuite allé chercher deux nouvelles médailles d'or en équipe et en individuel, et là cette nouvelle décoration pour Teddy Riner, grand bonhomme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Clément, tu restes avec nous, on fera vivre toutes ces célébrations, parce que dans un instant il va y avoir un show justement pour tous les spectateurs massés au pied de l'Arc de Triomphe. On revient également pour la seconde période d'Auxerre-Monaco, Monaco qui mène 2-0 à la pause, et on parlera également de Kylian Mbappé. Il est titulaire ce soir. Mbappé est titulaire avec le Real sur la pelouse de la Real Sociedad après une semaine agitée. Le conflit avec le PSG et ce rassemblement en équipe de France qui a été délicat. Tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
19h58 sur RMC Intégral Foot jusqu'à 21h avec Steve Savidan. On rappelle la victoire de l'OM 2-0 face à Nice. C'est la quatrième journée de Ligue 1. On rappelle qu'à la mi-temps, Monaco mène 2-0 à Auxerre, et on rappelle que dans une heure, le PSG reçoit Brest, deux clubs engagés en Ligue des Champions. Ça démarre la semaine prochaine sur RMC. Justement, tout de suite, on va parier sur la seconde période d'Auxerre-Monaco.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet, notre expert en paris sportif. Salut Johan.
Salut Benoît, salut à toutes et à tous.
Qu'est-ce qu'on parie et quelles sont les cotes? Elles doivent être ridicules.
Déséquilibrées, ah ouais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. 1-0-4, la victoire de l'AS Monaco, le nul est à 12. Ah ouais. Auxerre est à 44. Écoute, moi j'étais parti sur Monaco avec les deux équipes qui marquent. Ouais. Et ben on double encore la mise avec ce pari. Ben, donc,
moi je fais pas mal là-dessus aussi.
Ah, vous voyez Auxerre marqué.
Un 3-1 avec un but de Mbolo.
Oh là là. Alors attends, je te fais la cote du 3-1 déjà qui est à 5,70. Et si en plus je te rajoute Mbolo buteur, on monte à 23.
Oh. Alors s'il recommence pas, s'il recommence pas la deuxième mi-temps, je mettrai une petite pièce sur Malogun qui rentrerait.
Alors il faudra attendre qu'il entre en jeu pour pouvoir le
ou alors tu joues à un remplaçant marque un but.
Remplaçant, tu ne peux plus.
Remplaçant marque un but.
Remplaçant qui marque un but, tu ne peux plus à la mi-temps. Okay. Ils sont pas bêtes.
Tu vois, pour moi, c'est un expert en paris sportif. Il connaît ce genre de truc. Allez, merci Johan. Tous les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Quasiment 20h sur RMC. L'événement du soir, c'est évidemment ce PSG-Brest. 21h, Jeannot Rességuier et Valentin Jamin. On les retrouvera d'ici quelques secondes pour avoir les compositions d'équipe et pour présenter cette affiche. On suivra également un match espagnol ce soir avec le retour de Mbappé en Espagne. Real Sociedad, Real Madrid. On va suivre cette rencontre avec Edgar Grollo, notre correspondant à Madrid. Salut Edgar.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous. Ouais, ici, c'est pas PSG Brest l'événement du soir.
Tu m'étonnes. Je suis pas sûr qu'on regarde PSG Brest en Espagne. Ça m'étonne pas. C'est toujours un événement, un match du Real. C'est un match particulier pour Mbappé parce qu'il vient de traverser une semaine agitée, on le disait. Le conflit avec le PSG, le refus de négocier justement avec le conflit financier qu'il oppose à son ancien club. Le rassemblement à l'équipe de France qui s'est moyennement passé. Mbappé qui sera titulaire ce soir, Edgar d'ailleurs.
Oui, il sera titulaire, il sera associé à Vinicius, ça c'est comme d'habitude. Par contre, côté droit, ce sera Brahim Diaz, l'international marocain, qui est préféré à Rodrigo. Ce qui a noté aussi dans la composition, c'est ce milieu de terrain. On va la faire en entier parce qu'il y a pas mal de choses à noter. Courtois dans les cages, Mendy qui est côté gauche, qui est de retour, lui qui était forfait avec les Bleus. Après, c'est du classique Rudiger, Militao, Carvajal. Le milieu de terrain, Valverde, Modric, parce que Tchouaméni, lui, est absent du groupe. Arda Güler qui est titulaire. Et donc Brahim Diaz côté droit, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce 11 de départ et c'est vrai qu'Ancelotti a dit il va devoir commencer à faire tourner parce que là le rythme va enchaîner quand même 7 matchs en 3 semaines.
Et oui, on peut l'écouter d'ailleurs, il était à ton micro, tu as assisté à la conférence de presse d'avant-match hier. Écoutez Carlo Ancelotti sur la gestion des temps de jeu parce que le Real Madrid se lance dans un marathon comme les clubs français engagés en Ligue des Champions.
Évidemment que les joueurs qui ont joué jeudi sont sous observation. Les Brésiliens Vinicius, Rodrigo et Hendrik n'ont pas eu beaucoup de temps ni pour travailler ni pour se reposer. La gestion du repos est très importante pour essayer d'éviter des blessures qui vont forcément arriver. Il faut qu'on vive avec ça parce qu'avec ce calendrier, c'est normal qu'il y ait des blessures.
Et ils ont joué avec le Brésil face au Paraguay. Donc ça fait quand même 12 heures de vol. C'était seulement 3 jours. C'est vrai que l'opération est très serrée. Et moi, ce qui me marque dans cette déclaration d'Ancelotti, c'est qu'il dit aujourd'hui, avec ce genre de calendrier, en fait, c'est normal et on va forcément avoir des blessures.
Ouais, voilà, ça c'est sûr. Steve, c'est fort. En plus, avec la densité de l'effectif madrilène, tu parlais tout à l'heure de l'OM ou de Monaco. Là, c'est encore plus, c'est exacerbé à Madrid avec tous les joueurs de qualité dont ils disposent. Là, forcément, il doit y avoir du turnover de la part d'Ancelotti.
Bah là, il doit y avoir du turnover sur ce week-end-là. Parce que justement, il y a eu les Brésiliens qui ont fait un gros déplacement, même si ils sont pas en classico, t'as compris. Mais ça reste quand même du décalage horaire. L'importance de la récupération, de ce qu'ils ont eu le temps de retravailler en récup sur Madrid ou en réathlétisation pour certains. Après, ils ont joué contre le Paraguay. Bon, c'était pas un match de fou non plus en termes d'intensité. Donc j'ai envie de te dire, ils sont fatigués, ça tombe bien parce qu'Ancelotti, il veut faire des choix et ça l'arrange aussi un petit peu d'avoir ce timing-là aussi. Parce que quand tu regardes leur planning, tu te dis, le Real de Madrid est habitué, c'est des joueurs qui sont quand même habitués à jouer entre, on va dire, 55-70 matchs par saison. Donc en fait, on est quand même très tôt dans la saison. Donc qu'ils disent, ça va commencer à tomber des blessures, oui, mais pas maintenant en fait. Là, ça tombe bien quand même parce qu'on arrive là-dessus. De toute façon, sur le, c'est pas le débat, mais bien sûr que ça commence à arriver. C'est les incertitudes de Mbappé. Je pense que Ancelotti prépare aussi le fait que peut-être que Mbappé ne soit peut-être pas tout le temps titulaire, peut-être en championnat.
Et pour l'instant, il y en a déjà eu des blessures quand même là au Real Madrid. Commençait déjà à tomber. Il y a eu Tchouaméni et Mendy, même si c'est léger.
Tchouaméni, ça traînait quand même. Tchouaméni.
Ouais. Oui, il y a encore une grosse blessure. Il y a Bellingham aussi. Bellingham et Tchouaméni, ils sont ensemble pour la Ligue des Champions mardi face à Stuttgart. T'as Ceballos aussi qui est blessé au milieu de terrain. Ouais. Ça a déjà commencé à tomber. T'as Alaba qui est toujours pas revenu. Militao qui lui aussi a été touché, mais finalement il joue ce soir.
Ouais, mais tu vois, Bellingham.
Ils ont un effectif pléthorique, mais il y a quand même beaucoup
d'absents. Ouais, mais alors, c'est clair qu'ils ont un effectif pléthorique. Sur leur titulaire, Bellingham, Tchouaméni, c'est des blessures qu'ils avaient quand même un petit peu sur la fin de l'Euro. Quand tu regardes Kavaminga, bon, c'est une blessure, c'est surtout une blessure, c'est pas du musculaire, il s'est pas fait ça tout seul. Donc si tu veux, t'as quand même des blessures qui arrivent, qui sont des blessures de jeu. C'est pas encore pour l'instant des blessures de fatigue là pour l'instant.
Oui, c'est sûr. Non, mais ça viendra peut-être s'ajouter justement blessures de fatigue.
Bien sûr.
Et l'inquiétude, par contre, ici à Madrid, c'est plutôt la défense centrale. Alors nous, on en parle un petit peu moins parce qu'il y a pas de Français, il y a moins de joueurs que qui. Enfin, c'est pas des buteurs, donc c'est moins des Shakhtar. Rudiger, Militao, évidemment, ça c'est là ce qu'on connaît tous, mais Alaba est toujours pas revenu. Ouais. Et en fait, t'as plus grand monde à ce niveau-là. Et ça, c'est l'inquiétude.
Oui,
on parlait de potentiel recrue, finalement, il n'y a pas eu de recrue. Ça, s'il y a un blessé, ce serait un vrai problème pour le Real.
Bon, tu sais que c'est Tchouaméni, quand il reviendra de blessure, qui va s'y coller. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est Tchouaméni va redescendre. Voilà, il aime pas ça, il redescendra. En un mot, Steve, pour terminer sur le Real et sur Mbappé, tu penses qu'il peut être perturbé par la semaine qu'il vient de vivre d'un point de vue extra-sportif et sportif d'ailleurs, parce qu'en bleu, c'est
je pense que ça l'a perturbé. Je pense que ça l'a perturbé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas ne pas l'atteindre.
Oui.
Ça, c'est voilà. Une chose est sûre. Que ça soit médiatique ou que ça soit sportif, parce qu'il y a le côté médiatique, et comme il l'a dit, ça ne m'intéresse pas. Bon, ok, d'accord, ça ne t'intéresse pas. Mais après, il y a ce que tu as fait sur le terrain. Et ça, je pense que c'est s'il s'intéresse à ça, il peut se rendre compte que, en tout cas, ces deux matchs pendant le rassemblement des Bleus, ça n'a pas été top. Ce qui se passe un petit peu dans le vestiaire, ce qui commence un petit peu à sortir, c'est pas top. Ce qui se passe avec le PSG dernièrement, même si c'est pas lui qui gère, si c'est pas lui qui gère, c'est son avocat, etc. Ouais. C'est quand même, ça lui revient aux oreilles. Donc forcément, il y a un impact. Ouais. Maintenant, c'est comment lui, cet impact-là, il va pouvoir le gérer. Parce que quand tu joues ce soir la Real Sociedad, ça va pas être simple. C'est à la Real Sociedad. C'est pas comme si tu jouais à Madrid. Pour moi, ça sera totalement différent ce match-là.
Bon, eh ben
il va être agressé de fou.
21h, coup d'envoi de Real Sociedad, Real Madrid. Match à suivre en direct grâce à Edgar Groslo, qui sera au commentaire donc, de ce match, cette quelle affiche chance. Du championnat espagnol. Merci Edgar. À tout à l'heure sur AMC 20h06. Ça vient de repartir à la Baie des Champs entre Auxerre et Monaco, Fred Joly.
Depuis 37 secondes, cette deuxième période. Et là, AS Monaco a fait une belle différence en première avec Kerrer et Vanderson. Les Monégasques mènent 2-0. Il n'y a pas eu de changement pour l'instant. On reste sur le même schéma. Avec peut-être une accélération au Serrois, Paul Joly qui rentre dans la surface de réparation. Il ne sait pas trop quoi faire ce ballon, ce qui va pouvoir centrer. Non, il est bien repris par la défense monégasque qui peut récupérer cette balle. Il n'y a pas eu de changement, hein, vous le disiez. On est resté exactement sur le même schéma tactique de début de rencontre du côté de la JOCR puis du côté de Monaco. Et puis on a gardé également le même 11 que coup d'envoi de cette rencontre. Monaco mène 2-0 après 1 minute et 20 secondes en seconde période.
Et on revient dans un instant pour le suivre. La seconde période. On va aller faire un coucou à nos commentateurs du Parc des Princes. La voix du foot, Jean-Noël Séguier et Valentin Jamin qui sont déjà avec nous. Salut les gars.
Bon, salut à toutes et à tous.
Tout le monde.
On vient vous voir, on aura la compo.
Présentation des recrues.
Mais présentation des recrues. Jean-Noël Séguier.
Ah oui, ça a commencé. Mais non, mais c'est juste pour te dire ce qui se passe. Quoi. Voilà,
c'est pour ça que je vois. C'est pour
Pacho. Il joue à Neves. Qui c'est qui arrive là? C'est Doué. Désiré Doué qui arrive. Voilà. Et voilà pour les recrues du Paris Saint-Germain, les recrues estivales. Quoi.
Et petite banderole d'ailleurs en tribune. Pacho, Neves, Safonov, Doué. Bienvenue au PSG de la part du collectif Ultra Paris donc qui accueille ces recrues parisiennes.
Parce qu'on attend de savoir.
C'est un message très très fort, Benoît.
Si Safonov va jouer son premier match avec le PSG puisque Juju a papa depuis hier et donc du coup il serait possible qu'il ne débute pas le match mais bon on va voir, on attend la confirmation avec la composition des équipes.
Tu vois,
on est un peu à la bourre au Parc des Princes ce soir.
Tu vois Steve ce que c'est que la passion. Jean-Noël Séguier, ouais. 35 ans de métier ouf. Toujours aussi excité même par la présentation des recrues. Magnifique.
On fait le job.
On arrive dans un instant, vous aurez les compos parisiennes et brestoises, deux clubs engagés en Ligue des Champions. On en parle dans une seconde et on prendra Auxerre pour ce Auxerre-Monaco. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h11 sur RMC, l'Intégral Foot jusqu'à 21h avec le grand Steve Savidan. C'est la suite de la quatrième journée de Ligue 1. Grand par le talent, en tout cas. Le match en cours, c'est Auxerre-Monaco. On y retourne dans une seconde. Je rappelle que Marseille a battu Nice 2-0 et que ce soir, on suivra PSG-Brest à partir de 21h. On retournera voir Jeannot. Noé Séguier et voilà Benjamin dans quelques secondes. Retour tout de même à la Baie des Champs, Fred Joly, la nuit qui tombe sur Auxerre et le match qui est toujours aussi compliqué pour les Auxerrois.
Ouais, exactement, 52 minutes de jeu et la JOCR menée 2-0. Il y a une nouvelle tentative monégasque il y a quelques instants. Golovin qui a servi Ben Seguir qui a tenté la frappe enroulée. Elle était même trop appliquée cette tentative et captée tranquillement par Donovan Léon et les Auxerrois qui ont vraiment, vraiment du mal à s'approcher de la cage à mer, c'est compliqué pour Sinayoko et Perrin qui tentent des choses devant, mais bon, on a vraiment du mal à faire la différence face à cette équipe de Monaco.
Tiens, avant de retourner au Parc des Princes, je vous livre une déclaration qui a été donnée et qui a été faite par Roberto De Zerbi après le match de la victoire de l'OM face à Nice. Je rappelle que Marseille est leader provisoire de Ligue 1 après son succès cet après-midi, 10 points pris sur 12 possibles. Il a été interrogé sur la possibilité de voir Marseille lutter pour le titre de champion de France, Steve. Et voilà ce qu'il a déclaré. Il est normal de rêver, c'est le rôle des supporters de rêver. Après, il y a une réalité, on a changé énormément de choses cet été. On a d'ailleurs une immense marge de progression, donc on doit se concentrer là-dessus. Mais oui, les supporters sont en droit de rêver, nous tous avec, moi l'entraîneur, les joueurs, les dirigeants, Pablo Longoria, tous ceux qui représentent l'OM, on doit avoir cette ambition. Je ne sais pas où on arrivera, mais il faut avoir ses rêves. Le temps nous dira ce qu'il adviendra. Il faut se concentrer déjà sur le match qui arrive contre Lyon. Il ferme pas la porte. Hein. Il dit qu'il faut être ambitieux et pourquoi pas nourrir ce rêve, quoi.
Pragmatique aussi. Je pense qu'il a commencé aussi à palper un petit peu l'ambiance marseillaise et il ne voudrait pas rentrer dans quelque chose d'une promesse non exécutée. Donc il leur dit. Il est possible de rêver, mais t'as compris quoi. C'est pas une certitude non plus.
Ça doit être notre ambition quoi. On doit avoir l'ambition
sûr.
De rêver jusqu'au bout.
Bien sûr, tu peux avoir l'ambition de rêver et ça c'est donné à tout amoureux, j'allais dire du sport, de savoir que tu peux. Alors tu peux y arriver, mais aujourd'hui, ce qui te permettra d'y arriver, c'est toi d'être présent. Et faut pas se mentir, c'est quand même que le PSG ne soit pas au rendez-vous. Et c'est ce qui est arrivé à chaque fois quand le PSG n'était pas titré. C'est parce que ils n'ont pas été présents toute la saison et les autres ont été présents. Donc tu vois, c'est vraiment le coup. C'est de se dire on peut, mais on doit faire le maximum en espérant quand même quelque chose, en sachant que ça va se jouer aussi en termes de confrontation directe. Ouais. Donc t'as des Monaco, t'as des PSG. Ces matchs-là, je dis pas que c'est pas important de ne pas gagner contre Nice. Mais c'est surtout contre ces gros ténors qui s'affichent aujourd'hui qu'il va falloir être au rendez-vous.
Et on a hâte d'y être sur ces grands rendez-vous pour l'Olympique de Marseille pour pouvoir juger du niveau réel de cette équipe. Retournons au Parc des Princes. Ils sont forts, ils sont compétents. Valentin Jamin, Jeannot Rességuier. Ils ont enfin les compos du match de soir PSG-Brest, Jeannot.
On a galéré, hein.
Ça se mérite, hein.
Mais ça se mérite, hein, les compos du PSG ici au Parc des Princes avec les dents.
Alors, pour l'avoir vécu cet été, quand vous êtes dans un stade avec Jeannot Rességuier, il met une pression à l'organisation. Je peux te dire que personne fait le malin, hein.
Les gens tremblent ici.
Ah, Valentin, est-ce que tu peux témoigner, s'il te plaît?
Ah non, mais après, on la veut tous, la composition. On a envie d'informer nos auditeurs.
Non, mais ce que je veux dire, c'est témoigne de la pression que met Jeannot. C'est impressionnant.
Ah, il met la pression, bon, il ralote, quoi. Jeannot, il est impatient. Il veut savoir si Milan Skriniar est titulaire, par exemple.
Ouais, ou Safonov, tu vois, par exemple.
Alors. Eh ben non. Est-ce que vous voulez savoir, puisque vous vous moquez de Jeannot?
On se moque pas.
Donnarumma dans la cage, il est bien là, le nouveau papa Gigi Donnarumma. La charnière centrale avec donc Milan Skriniar, qu'on pensait qu'il allait partir, on pensait qu'il était mis de côté. Il est titularisé avec Lucas Beraldo dans la charnière centrale, à gauche Nuno Mendes, à droite Achraf Hakimi, un milieu de terrain avec Fabian Ruiz, avec Kangin Lee, avec João Neves, et puis l'attaque plus classique, on va dire Barcola à gauche, Dembélé à droite, et donc en 9 ou en faux numéro 9, Marco Asensio, ça veut dire que Doué, que Colombo Moigny, que Pacho par exemple sont placés sur le banc, alors que Zaïre Emery et Vitinha sont absents, ils se sont blessés en sélection.
Et le capitaine Marquinhos aussi sur le capitaine Marquinhos. Hein, puisqu'il était avec Seleção pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec une victoire contre Équateur et une défaite au Paraguay, et donc remplaçant ce soir. Ça veut dire qu'il va nous remettre Beraldo à droite et Skriniar à gauche, ce qui va quand même un petit peu déséquilibrer le Brésilien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Pour ce qui est des Brestois, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Ce que veut mettre en place Éric Roy est en train d'être testé ce soir, à savoir Edmilson Fernandez, qui est un défenseur prêté par Mayence, défenseur suisse, sera en sentinelle devant donc Chardonnay et Koulibaly pour ce qui est de la défense axiale de la part des Brestois, avec également Bizot donc dans les buts, avec Lala à droite, avec Aïdara à gauche, le milieu de terrain donc pour accompagner Fernandez, Camara avec Magnetti, hein, Lesmelou est toujours pour l'instant indisponible, avec Del Castillo sur le côté droit de la défense, Sima de l'attaque, Sima à gauche, et Ajorc dans l'axe, et je dis une bêtise, c'est le Cardinal qui va accompagner Chardonnay et non pas Koulibaly comme ça avait été au départ annoncé.
Il est au point, le Cardinal en plus, donc il va faire du bien à cette défense.
Oui.
Dans un instant, on présentera cette rencontre, on parlera du PSG, on parlera de Brest également, mais Steve, reste là, parce que tout de suite, on va parier sur ce PSG. Ouais.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Toujours avec notre expert en paris sportif, Johan Guillet. Rebonsoir, Johan.
Rebonsoir, messieurs.
Là aussi, on a des cotes extrêmement déséquilibrées.
Ah, complètement. Hein. 28, la victoire du Paris Saint-Germain. Brest est à 10. Le match nul est à 6. Je t'avoue que c'est compliqué là de trouver une cote sympathique.
Ah bah, je peux t'en trouver une rapidement.
Eh bah, vas-y.
Alors, PSG qui gagne avec les deux équipes qui marquent. Et j'ai pas entendu. Et j'ai pas entendu Jeannot, un attaquant de Brest, parce que comme il y a Skriniar qui joue, je fais pas.
Ajor que Del Castillo, Simon Sima.
Paris avec une équipe qui marque plus Ajor buteur, on monte à 9.
C'est pas voilà. Mal,
écoute, je vais te suivre moi sur Paris, les deux équipes qui marquent, je vais peut-être pas aller sur Ajor buteur précisément.
Surveille-moi l'effet Skriniar titulaire sur les bookmakers. Est-ce que ça fait augmenter la cote du PSG?
Non, ça ne l'a fait pas vraiment. Ça ne l'a fait pas vraiment augmenté. Maintenant, je suis en train de chercher la cote de Skriniar buteur, c'est 17.
Eh ben moi je vais le jouer. Voilà. Pour faire taire Steve Savidan. Le but de Skriniar,
ça compte pas, qu'on soit bien d'accord.
Non, évidemment, merci. Les conseils à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20h19 sur RMC, avant de vous présenter ce PSG Brest. Retour par et détour par l'Abbé Deschamps. Auxerre Monaco, le temps, le score. Fred Joly.
59 minutes de jeu. L'AS Monaco mène 2-0. L'AS Monaco déroule et dès qu'ils accélèrent, dès qu'ils veulent partir en contre, ils le font parfaitement bien. C'est compliqué pour cette équipe d'AG Auxerre. Et puis, quand on voit que Zakaria se promène entre trois joueurs au Serrois dans l'entrejeu, on dit que du côté de Monaco on joue vraiment facile.
Et on arrive dans un instant, PSG Brest, l'affiche du soir. Qu'est-ce que vous attendez de l'attaque parisienne, notamment Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Asensio de nouveau en position de faux numéro 9? On va en parler avec Steve Solidan, avec Jeannot Rességuier, avec Valentin Jamin et avec vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot,
Benoît Boutron.
20h22 sur RMC Intégral Foot jusqu'à 21h. Steve Savidan et là Jeannot Rességuier, Valentin Jamin sont au Parc des Princes pour PSG Brest, coup d'envoi 21h. Et Fred Joly est à la Baie des Champs pour ce Auxerre Monaco. Fred,
62 minutes de jeu et à l'instant Mbolo se déjoue un petit peu facile face à Léon. Je ne sais pas si vous avez vu les images des garçons, mais franchement
je l'ai MPG, ça m'arrange pas.
Il a tenté, mais alors, franchement, sans grande conviction. Une tête, la parade un peu bizarre de Léon qui en deux temps s'interpose. Ah, et tout à l'heure, Monaco nous a monté un petit exemple de contre-attaque en 5 touches de balle. Ils sont partis quasiment de leur surface de réparation. Ils se sont retrouvés devant le but de Léon. Le ballon très fort de Golovin qui est passé à quelques centimètres des pieds d'Embolo. Mais pour l'instant, Monaco mène 2-0, le score pourrait être bien plus large et il va y avoir du changement du côté de Monaco. 2-0 pour Monaco après 18 minutes de jeu en seconde période.
Après Steve, si on veut
émettre une excuse pour Mbolo là.
Non, ce que je veux dire c'est ça, c'est qu'on peut, on peut être critique envers les attaquants monégasques qui devraient marquer au moins 2 ou 3 buts de plus ce soir.
Hein. Bah Mbolo déjà il devrait avoir marqué 2 buts.
Ah oui.
Allez.
C'est le bémol du début de saison monégasque, hein, les attaquants ont du mal à marquer des buts.
Non mais sur la passe de Golovin, on se demande comment il la loupe devant le but, il se jette. Franchement, faut la mettre.
Tu as cette tête en première mi-temps où il domine pas son défenseur alors qu'il est devant. Déjà il y a celle-ci. À la limite là, t'as à la limite la tête là. Bon, à la limite il la joue trop simple. Mais là t'as le 1 contre 1, t'es en numéro 9, t'es lancé. Tu sens pas vraiment de puissance ni de force qu'il met. Ouais. Parce que quand il est sur la passe de Golovin, bon, le ballon est fuyant, il est peut-être un peu mal placé, tu vois, il attend pas. Parce que Golovin peut-être qu'il veut la mettre aussi directement. Mais là sur le 1 contre 1 avec Léon. Non mais c'est le 1 contre 1, moi je suis là.
Sur le 1 contre 1, il doit la mettre, c'est un avançant, c'est son
job. Mais fais-lui mal au gardien, fais-lui mal.
Ah oui, c'est ça, alors quand il y met une espèce de frappe de l'intérieur, histoire de dire, enfin il met aucune envie.
Attention hein, Fred, là t'as eu quand même 2-3 occasions d'affilée. Auxerre, ils sont menés que 2-0. On n'est pas contre un truc où ils reviennent, ils marquent un but là à Auxerre. Ça se transforme le match, c'est un piège maintenant pour Monaco là.
Exactement, le fameux 3ème.
Parce que là, ils ont pas marqué le 3ème. Alors maintenant, il y a mon chouchou qui rentre là, Balogun, il rentre. Mais bon.
On verra. On verra s'il fait mieux que Mbolo, même s'il a remplacé Ben Seguir. C'est Ben Seguir qui est sorti, je crois.
Mbolo, il va être dans le trou, lui, pendant quelques semaines là. Parce que là, il regarde son match de ce soir.
On verra. Écoute, 2-0 pour Monaco à Auxerre. Il reste 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. Retour au Parc des Princes. Jeannot Rességuier, Valentin Jamin. On rappelle les choix de Luis Enrique, notamment à cette attaque Barcola, Asensio, Dembélé. L'événement de la compo parisienne, c'est la titularisation de Milan Skriniar en défense centrale. Marquinhos est sur le banc. Steve Savidan, cette attaque avec ce faux numéro 9 Asensio, c'est une constante chez Luis Enrique, hein, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il aligne cette attaque-là. Est-ce que ça te plaît, toi, Steve?
Bon, c'est pas déconnant. Ça, ce qui est sûr, c'est que c'est pas déconnant, parce que de toute façon, au PSG, ou surtout avec Luis Enrique, en fait, dans sa culture foot, bon, qu'il joue avec un 9 ou pas, c'est pas réellement une problématique, parce que lui, il s'attend pas à avoir un piqué qui joue là vraiment dans la surface. Il veut avoir un 9 qui peut éventuellement se balader, il crée des systèmes de jeu avec des joueurs qui peuvent éventuellement sur les côtés, qui peuvent énormément rentrer. C'est pas des en plus, on commente aussi.
Colomouani peut pas faire ça.
Bah, je dis pas que Colomouani peut pas faire ça, c'est que c'est un autre profil. Colomouani, ça va être plus un joueur qui va être de la rupture. Là, on regarde, on a quand même pas un numéro 9 au PSG là aujourd'hui, qui pourrait être un 9 qui ne bougerait pas. Et je pense que de faire un faux 9, c'est aussi pour faire opposer peut-être Colomouani en tant que numéro 9.
Bah, quand tu vois qu'il titularise Fabian Ruiz, qui est en feu avec l'Espagne, hein, il a claqué un doublé contre la Suisse, avec la Ligue des Nations. Quand tu vois comment a joué Colomouani contre la Belgique, tu peux pas te servir de cette dynamique-là ?
Ah, mais Jeannot, regarde,
on vient de faire tout à l'heure la composition d'équipe du Real de Madrid. Et qu'est-ce qu'il dit le coach ? Il dit tout simplement, on va arriver dans des semaines qui vont être très tendues. Donc bah voilà, je commence à faire tourner. Il fait pas jouer Rodrigo alors que Rodrigo il est en feu.
Après, Asensio, depuis que Ramos s'est blessé, c'est lui le titulaire en puissance. Donc, il y a la Ligue des Champions qui arrive, mais c'est quand même aussi un statut qui est affirmé pour lui. Qu'il est vraiment titulaire aussi pour apporter peut-être plus de maîtrise technique que ne peut le faire parfois Colomouani qui
est déçu
des fois à ce niveau-là.
Et... ouais, moi je veux bien vous entendre là-dessus. Bon, après, de toute façon, ces convictions sans numéro 9, on les connaît, elles n'existent pas que depuis le Paris Saint-Germain. Mmh. Donc c'est comme ça qu'il aime jouer, c'est comme ça qu'il a envie de jouer. Mmh. Et c'est comme ça qu'il jouait avec Kylian Mbappé, hein, en numéro 9, qui apparemment n'est pas son poste, mais au Real Madrid et en équipe de France, et il est numéro 9. Donc à ne plus rien comprendre.
Parce qu'il y a meilleur que lui sur les côtés.
Mais après, moi ce qui m'intéresse, c'est de revoir Barcola et Dembélé, désolé, j'insiste là-dessus, sur la dynamique de l'équipe de France. Alors ouais, ça n'a pas été génial contre l'Italie, mais on a quand même vu un bon Barcola, ça a été mieux contre la Belgique, et on a vu un très bon Dembélé qui en plus a claqué. Donc moi je suis très très impatient de voir ce que ça peut donner. Et puis finalement, si c'est son attaque de Ligue des Champions contre Girona, pourquoi pas, hein.
Après Jeannot, est-ce que c'est, alors je vais être très critique exprès, est-ce que c'est un adversaire de Ligue des Champions ce soir?
Bah oui, il la joue.
Mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, je suis d'accord.
Tu vois ce que je veux dire. Quand je parle
pour les Brestois, c'est un avant-goût de Ligue des Champions. Alors toi, tu es en train de dire que peut-être pour les Parisiens, ce serait pas le cas. Voilà.
Pour les Parisiens, c'est un match de championnat. Pour les Stade Brestois, c'est un match de préparation à la Ligue des Champions. Tu vois, parce que j'ai écouté la conférence d'Éric Roy qui le disait. Il disait, bah nous, c'est une grosse préparation pour la Ligue des Champions parce que ça va être à la hauteur des adversaires qu'on va avoir.
Mais t'as entendu, il a dit, ne me parlez pas de Sturm Graz. Hein. On parle que de Paris. Donc quelque part, s'il met des choses en place aussi, c'est en pensant à ce match-là. Ce qu'il veut pas, c'est que les joueurs pensent à la Ligue des Champions avant de se concentrer sur le championnat.
Là où Jeannot a raison, Steve, c'est que on attend Barcola et Dembélé parce qu'on cherche ce leader d'attaque parisien et on a un excellent début de saison
Barcola
de Barcola
quand même. Hein, ouais.
On a ce que j'allais dire en termes de statistiques.
Barcola est certainement le
meilleur joueur de Ligue 1 en ce moment avec Mason Greenwood. Dembélé l'a dit, il doit être plus décisif. Il l'a été en équipe de France. Ces deux joueurs-là doivent faire un grand match ce soir. On les attend particulièrement, Steve, quand même.
Bah, bien sûr qu'on les attend. Mais aujourd'hui, Barcola, il est dans sa continuité. Depuis le début, même match après match, on n'a pas senti qu'il s'enflammait ou même qu'il descendait en termes de performance. Je pense qu'il est vraiment bien physiquement sur ce début de saison-là. Il ne voulait pas le rater. Il a tout mis en œuvre pour ne pas le rater. Maintenant, ça va être aussi, c'est pas un joueur tout seul. C'est aussi, il est entouré de joueurs, que ça soit par le dessous, sur son intérieur, et puis son numéro 9. Donc, c'est quand même aussi un joueur. Je me rappelle de certains matchs. Il aime bien trouver des appuis, tu vois, sur un 1-2. C'était contre Rennes, je crois, qu'il marque ce but-là, où il fait un 1-2. Donc, honnêtement, Barcola, il est dans sa continuité. Je crois que Luis Enrique essaye de le protéger dans sa conférence de presse quand il dit bon, bah voilà, c'est un joueur aussi qui peut être encore plus exceptionnel. Donc, on attend aussi parce qu'il est déjà quand même pas mal, quand même. Ouais. Donc, aujourd'hui.
Pardon. Allez, après, non. L'interrogation, pour moi, elle est plus derrière que devant. Bah, devant, tu sais qu'ils ont de la qualité, tu sais que ça peut très très bien fonctionner. En revanche, Skriniar et Beraldo,
c'est bien pour les paris sportifs. C'est bien pour les paris sportifs.
Non, mais t'as bien compris la logique. Il s'est dit, je relance Skriniar dans un match comme celui-là parce que je pense que l'adversaire ne lui fait pas particulièrement peur, à mon avis, Jeannot.
Non, mais n'empêche que l'an dernier, ils ont fait souffrir. Mais bon, de le relancer, ok, puisque tout le monde nous avait laissé entendre qu'il allait partir.
Il devait partir,
mais moi j'attends de voir le positionnement, parce que logiquement, Skriniar, c'est centre-gauche, hein, donc ça veut dire qu'il va remettre encore Beraldo centre-droit. Le pauvre garçon, il joue partout, mais il joue rarement à son poste. Alors après que tu fasses souffler Marquinhos dans la perspective de la Ligue des Champions, parce qu'il est arrivé jeudi de son déplacement avec le Brésil, ça me paraît logique, mais pourquoi ne pas enchaîner avec Pacho qu'il a été plutôt correct depuis le début de la saison.
Et vu que tu parles de défense, c'est la limite de l'effectif parisien, c'est qu'en revanche tu es obligé d'aligner tes deux latéraux titulaires.
Tu vas récupérer Kimpembe à un moment donné.
Ouais, mais tu n'es pas latéral non plus.
Lucas, ça va être plus au mois de mars. Quoi. Ça sera plus au printemps. Quoi.
Tiens, les gars, restez avec nous. On va marquer une petite pause. Petit détour tout de même par l'Abbé Deschamps, Auxerre, Monaco, Fred Joly. Toujours la même tendance pour l'instant.
Exactement, 71 minutes de jeu et Christophe Pélissier s'est enfin décidé à faire des changements en faisant rentrer Aïe et Ado Onaewu, deux joueurs plutôt et même très offensifs, et Danois dans l'entrejeu bourguignon.
Et dans un instant, on parle de Brest parce que c'est une grande période qui s'ouvre pour les Brestois. Ils vont découvrir la Coupe d'Europe la semaine prochaine avec ce match face à Sturm-Graz. Ils affrontent le PSG ce soir. C'est le début des grandes affiches pour le Stade Brestois. Est-ce qu'ils sont prêts justement pour ces grands rendez-vous? On en parle avec Steve Savidan, Jeannot Rességui et Valentin Germain dans une seconde. Ne bougez pas.
RMC Intégral Foot.
Benoît Boutron.
20h34 sur RMC. Dans 26 minutes, le coup d'envoi de PSG Brest. La suite de la 4e journée de Ligue 1 cet après-midi. Marseille et battu Nice 2-0. Le match que l'on suit en direct avec Steve Savidan et Fred Joly, c'est Auxerre Monaco. Fred, avec le jeu qui est arrêté. Hein.
Ouais, exactement. Un joueur monégasque a pris un coup de pied dans le ventre, bien involontaire. Le jeu est arrêté. Les soigneurs sont sur la pelouse. Le score est de 2-0 en faveur de Monaco. Avec quelques changements, effectivement, vous le disiez, du côté de la JOCR, on a fait rentrer Aïe, un vrai attaquant de pointe, Ado Onaewu, qui est également un joueur qui s'est lui placé sur le côté droit. Ici, Nayoko s'est décalé sur le côté gauche pour tenter enfin de trouver une ouverture dans cette compacte défense monégasque qui, pour l'instant, joue bien le coup. Et on a vu l'entrée de Balogun qui a tout de suite été remarquée, puisque dès son premier ballon, il a contraint Léon à une belle parade. Je ne sais pas si vous avez vu la parade. Merci. Ballon en profondeur, boum, c'est pas posé de question. Il a fallu la main ferme de Léon pour sortir le ballon du cadre. Et puis, à un moment, il nous a fait un déboulé sur le côté gauche de l'attaque monégasque. Voilà, lui, il amène vraiment de la pêche et du tonus à cette attaque monégasque. Ouais, vraiment de la qualité, ce garçon.
Bon, 2-0 pour Monaco. On tremble pas à Monaco, hein, parce que ce match est totalement maîtrisé. Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. Retournons au Parc des Princes. On l'a dit dans 25 minutes, coup d'envoi de PSG-Brest. Jeannot Rességui et Alain Tajamin. Bah, les gars, on peut en profiter pour rappeler les compos d'équipe d'ailleurs.
Avec le PSG, Donnarumma dans la cage, la charnière inédite, originale on va dire, Skriniar son premier match avec Lucas Beraldo, à gauche Nuno Mendes et là à droite le vice-capitaine Achraf Hakimi, première titularisation avec le PSG pour Fabian Ruiz cette saison accompagné de João Neves et de Kangin Lee, et là attaque classique, Barcola à gauche, Dembélé à droite, Asensio en pointe.
Pour le Stade Brestois avec Eric Roy et des choix qui vont certainement se rapprocher de ceux qu'il devra effectuer jeudi prochain pour le Sturm-Graz à Rodon pour le début de la Ligue des Champions avec Bizot dans les buts. La charnière Chardonnay, le cardinal, Kenny Lala sur le côté droit, Idara sur le côté gauche. Au milieu de terrain, il a donc décidé d'installer Edmilson Fernandez, le Suisse, prêté par Mayence, qui sera accompagné de Madi Camara et de Magnetti. Les Smelou est toujours trop juste. Del Castillo à droite, Sima prêté par Brighton à gauche, et Ajork, lui qui arrive de Mayence, sera l'attaquant axial de cette formation brestoise. C'est Clément Turpin qui sera l'arbitre de la rencontre et qui sera, on va dire, visionné par Amaury Delerue et Mickaël Landreau. Ils sont juste à côté de nous. Ils viennent à l'instant de nous saluer, donc c'est pour ça qu'on en parle.
Les nouveaux responsables de l'arbitrage français. À fait, Mickaël Landreau, ancien grand gardien de Ligue 1, et Amaury Delerue, ancien arbitre du championnat. Tiens, on va parler de communication dans un instant, celle d'Éric Roy, parce que Brest attaque une période charnière de son histoire, la découverte de la Coupe d'Europe et la plus grande avec la Ligue des Champions. Je vous livre juste une petite phrase de Roberto De Zerbi, une autre. On a parlé tout à l'heure des ambitions de titre de champion de France pour l'OM après cette victoire face à Nice 2-0. Petite phrase qui va t'intéresser, Steve Savidan. C'est là où on voit qu'il est très fort en com, Roberto De Zerbi. Il a parlé du kawaii, parce que vous le savez, son remplaçant Neil Mopé a marqué, c'est lui qui a ouvert le score cet après-midi. Déclate De Zerbi, notre titulaire, c'est Wai. Comme ça, il met les choses au clair et il redonne confiance à son attaquant qui n'a pas joué. C'est malin, ça, Steve, quand même.
Après, c'est malin de mettre Neil Mopé contre Nice. Hein,
aussi, ouais, ancien niçois, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Steve, c'est malin comme déclat, parce que comme ça, il confirme à Wai que c'est vraiment lui qui part titulaire.
C'est aussi de la com, c'est aussi des certitudes qu'il peut avoir, parce que Mopé, c'est un jeune joueur. Wai, on a un peu plus de certitudes. Mais les certitudes deviennent un peu aussi des incertitudes au vu de ses premiers matchs et un petit peu de sa saison un peu de l'année dernière quand même, en tout cas sur sa trajectoire. Mopé, si aujourd'hui commence un peu à s'affirmer et à enchaîner les bons résultats, qui commence titulaire, c'est très bien, mais au bout d'un mois, les choses elles peuvent vite fait changer. Hein. Et De Zerbi, il peut faire de la com comme il veut. Si à un moment donné, ça changeait.
Si les performances de Mopé sont bien meilleures, c'est lui qui jouera, c'est ce que tu veux dire.
Bien sûr, ça serait tout à fait logique qu'il fasse comme ça.
Bon, 20h38, parlons donc du Stade Brestois, Jeannot, oui. Parce que là, les supporters attendent ça depuis plusieurs mois, parce que ça y est, le rêve va se réaliser. La découverte de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions, ce match face à Stormgrass la semaine prochaine. Mais surtout, l'avant-goût, l'avant-première ce soir, déplacement au Parc des Princes. C'est particulier à gérer. Est-ce qu'ils sont prêts, ces Brestois? C'est la question qu'on se pose, Jeannot.
Je pense qu'on n'a pas la réponse, et Eric Roy non plus. Lesmelou est encore trop juste. Douleur au pied droit au moment où il enchaîne les frappes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé à l'entraînement. Fèvre, lui, a pris un coup mardi dernier. Du coup, il a été protégé, pas du déplacement. Le retour, en revanche, d'Abdoulaye Ndiaye, qui lui était sur le coup de 3 suspensions avec 3 lors de la dernière journée. Loco, lui, tendon d'Achille. Donc, il a été un petit peu obligé de restructurer son équipe. Il y a Mama Baldé qui est arrivé en prêt de Lyon. Il y a Ibrahim Salah qui est arrivé lui en prêt de Rennes. D'ailleurs, belle accolade avec Désiré Doué tout à l'heure. C'est sympa, c'était une belle image. Donc voilà, il est un petit peu dans l'obligation de voir ce que peut valoir son équipe sur ce match de ce soir face au Paris Saint-Germain, parce qu'il en a pris 5 à la maison face à Marseille, il en a pris 2 sans en marquer aussi à Lens, et il a corrigé Saint-Étienne. Donc il a un petit peu besoin de, un petit peu, même beaucoup besoin de certitude pour amorcer cette Ligue des Champions. Alors tu en parles, lui il veut pas parler de Stumgratz pour l'instant, mais par contre la ville et Brest s'organisent, parce que déjà ils ont fait l'annonce qu'il y aura 2 soirées mode fan zone à Brest Expo et à Brest Arena pour le match contre Barcelone, à Barcelone, et contre le Real Madrid. Ce sera d'ailleurs la dernière journée en multi, et qu'ils ont signé un partenariat avec un Blablacar et les Carbillons, qui sont partenaires de Brest, pour mettre en place le service de bus à 19,90€. J'ai vu ça chez nos confrères du Télégramme ce matin, pour dire vous aurez départ gare routière et retour gare routière pour aller voir le match à Rodeau.
Exactement.
Faut quand même s'organiser, parce que c'est peut-être pas simple non plus, même si il y a eu des imbéciles, des abrutis, pour pas dire autre chose, qui ont fait des tags côté de Roudourou, pas loin de la route des bus, pour dire que les Brestois étaient pas les bienvenus. Pour s'arrêter là-dessus, ça prouve bien quand même que la bêtise est un petit peu partout. Donc voilà, pour ce qui est des Brestois, c'est un véritable test ce soir face au Paris Saint-Germain, surtout quand tu sais que ils n'ont gagné qu'une seule fois dans leur histoire des oppositions. C'était en 1981.
Parce que Steve, si tu te mets dans la tête d'Eric Roy, tu te dis la crainte ultime qu'il doit avoir, c'est de prendre une valise ce soir et d'arriver en total manque de confiance sur la Ligue des Champions.
Et je vais même te dire que tu vas pas en être très loin, parce qu'il y a vraiment quand même quelque chose qui manque depuis le début de cette saison. C'est Pierre Lesmelou.
C'était son leader technique,
Voilà, c'était son
leader.
Ça va
être juste apparemment, c'est juste parce que je l'ai dit.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était son leader l'année dernière. C'était quand même l'un de tes meilleurs joueurs de la saison. Il a voulu partir, ou il a voulu demander, une très très grosse augmentation, que ça n'a pas été accepté. Ça a été une sorte de petit conflit. En tout cas, la Ligue des Champions ne lui suffisait pas à Brest. Donc déjà, ça a foutu un petit peu l'été et une partie du mercato un petit peu bizarre, un petit peu sur Brest.
Surtout qu'il était blessé, ça a freiné ses envies de départ.
En plus, après, il a eu sa petite blessure. Il l'a eu après, son envie de vouloir partir. Hein. Il voulait partir, il s'est blessé après. Donc, si tu veux, t'as déjà ça. Il te montre ton leader technique de l'année dernière sur qui tu te basais et t'allais te baser cette année. Donc, t'es obligé, forcément, de te réorganiser. Et là, tu fais ton premier très gros test. On va dire que c'est ton premier très gros test en termes de timing avant la Ligue des Champions. Et il te manque ce joueur-là. Donc, tu es quand même obligé de prévoir des trucs en sachant que la continuité de ta saison, de la Ligue des Champions, de ta Ligue 1, en espérant qu'il soit là comme l'année dernière. Parce que c'est ça qu'il faut. Hein.
Après, tu joues Sturm Graz. Après, tu as Salzbourg et tu as le PSV Eindhoven. On rappelle,
mais moi, je vais te dire.
Non, mais attends, exactement. On rappelle que tu marques des points, t'es dans une poule unique, que le fait d'arriver à gagner 1, 2, 3 matchs, 9 points, tu peux espérer te qualifier parmi les 24, hein, de 9 à 24 qui te permettraient de jouer les barrages, et les premiers seront de 1 à 8 qualifiés directement pour les 8e de finale. En revanche, si t'es après la 24e place, t'es pas de reversion, c'est fini, c'est terminé. Mais pour une première fois dans la Ligue des Champions, je trouve bon, à part le Real et à part le Barça, tu me diras rien que ça, mais n'empêche que Sturm Graz, Salzbourg, PSV Eindhoven, oui, si tu te loupes pas contre Sturm Graz, ça peut être intéressant pour et l'équipe et le coach et les supporters. Ne le perdons pas de vue.
La découverte de la Coupe d'Europe, l'euphorie, même si le stade de Roudourou a une capacité limitée, tu as raison que c'est un grand rendez-vous qui attend les Brestois face à un adversaire.
Les gars, Sturm Graz, sur ces 5 matchs là depuis le début de la saison, donc ils sont premiers en Autriche. C'est 4 victoires les derniers matchs là.
Oui, mais c'est pas le Real, c'est ce que tu dis, Jeannot. C'est
ça. C'est pas ce que je veux dire.
Non, mais ils sont habitués à la Coupe d'Europe. Ça, c'est sûr, par rapport à Brest. Oui. Mais bon, sur l'envie, sur l'énergie, sur le soutien du public, même si c'est pas à Brest.
Mais carrément, Jeannot. Et carrément.
Prenons le pouls d'un supporter brestois, c'est Christophe qui a composé le 32-16. Salut Christophe.
Salut tout le monde, salut Benoît, salut Jeannot, salut Steve.
Christophe, question intéressante, parce que normalement sur le papier, sur le calendrier,
est-ce que t'y crois ?
Pour Brest, le match le plus sexy de la saison, de l'année, c'est peut-être le déplacement au Parc des Princes, mais là, il y a la Ligue des Champions qui arrive la semaine prochaine. T'es comment dans ta tête ? T'as hâte de voir ce qui va se passer ce soir, ou toi aussi, en tant que supporter, tu te projettes déjà un peu sur la Ligue des Champions la semaine prochaine ?
Alors, je vais me placer déjà en tant que joueur. J'espère qu'ils ont la tête à ce soir. Ouais. Moi, en tant que supporter, j'ai un peu la tête à jeudi.
Ah bah, tu vois.
Voilà.
T'as pris ton vendredi matin ?
Bah non, mais on fera le taf. Ouais.
Bon, est-ce que t'es inquiet pour ce soir, alors, si tu te mets dans la place des joueurs ?
Inquiet, oui. Bon, Paris bien parti. Je pense qu'ils vont faire une très bonne saison. Comme vous le disiez, il nous manque notre pièce maîtresse de l'année dernière, Pierre Desmélou. Bon, après, on va voir. Hein, mais le match contre Saint-Etienne m'a rassuré. Après, ce soir, ce sera dur. C'est clair. Maintenant, c'est un match avant la Ligue des Champions aussi pour Paris. Donc, peut-être qu'ils ont la tête aussi à la Ligue des Champions. Donc, il faut qu'on joue notre jeu de l'année dernière. Et il y a peut-être des choses à faire.
Bon, toi, si
Christophe, le match contre Saint-Etienne t'as peut-être rassuré, mais est-ce que t'avais vu quand même l'adversaire? Parce que c'était quand même Saint-Etienne.
Je sais,
c'était quand même compliqué, d'accord. C'était quand même compliqué pour se donner un peu une idée. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de voir cette première mi-temps contre le PSG, déjà, avant de parler de match. Mmh. J'ai envie de voir leur entrée en jeu, dans leur attitude, comment ils vont pouvoir limiter, parce que tu vas devoir limiter leur possession de balle, les fulgurances de Barcola, de Dembélé, il va pas falloir trop se jeter, il va falloir faire attention quand même à pas prendre la foudre en première mi-temps. Moi, j'ai hâte de voir cette entrée en jeu et cette première mi-temps déjà.
Et là on aura déjà une idée, et il faut absolument que Brest résiste dans les premières minutes pour que il y ait un peu de confiance défensivement. Merci Christophe.
Après,
de 32-16. Vas-y Jeannot.
Sur les côtés, Kenny Lala et Aïdara aussi, hein, ça va être hyper important pour eux de voir ce qu'ils sont capables de faire face à deux joueurs comme ça, Dembélé et Barcola, mais ça doit aussi permettre et aux joueurs et à Eric Roy de se faire vraiment une idée sur la qualité de son effectif de départ, quoi. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour cette raison là qu'en l'absence de Lesmelou et de Fèvre, il a un peu plus organisé ou réorganisé son milieu de terrain en positionnant Edmilson Fernandez, Jeannot, dans ce rôle un peu particulier, quoi.
Je te remercie. On vous retrouve dans 14 minutes pour le coup d'envoi de ce PSG Brest. Merci à Valentin Jamin. On va juste retourner à l'Arc de Triomphe parce qu'on a une légende du sport français qui est au micro de Cédric Chasseur. C'est Aurélie Aubert, la championne paralympique de Boccia. Salut Cédric.
Salut, et en effet, on est avec Aurélie Aubert. Aurélie, quelle journée qui s'est terminée par cette décoration des mains d'Emmanuel Macron. C'était formidable.
C'était formidable. Je me doutais pas du tout que c'était Emmanuel Macron qui allait mettre la médaille. Donc pour moi, ça a été un grand honneur, surtout qu'on a été que certains athlètes. Donc c'était vraiment génial. Et voilà.
Raconte-nous un peu comment t'as vécu cette journée du défilé jusqu'à la remise de cette médaille.
Je dirais que c'était une journée de rêve. J'étais sur mon petit nuage. C'était incroyable.
Qu'est-ce qu'il vous a dit le président ?
Qu'il était très fier de moi et il était très gentil avec moi.
Il vous a senti très ému avec une petite larme devant ce public, cette récompense ?
Évidemment, oui, parce que moi, je n'avais pas conscience de tout ça. Il y a 10 jours, on me dit « Oui, mais vous allez voir Emmanuel Macron un bon mois !» Et ça, c'était incroyable. Et franchement, je pense que ce qui est plus aux gens, c'est que je suis naturelle et c'est ça qui compte, en fait.
Vous êtes rendu compte que vous êtes devenue la star de ces Jeux Paralympiques. C'est vous la star, Aurélie Auvert ?
Non, une star, non. Je ne suis pas une star. Je suis quelqu'un de normal et juste qui aime bien faire son sport et qui ne triche pas avec mes sentiments.
Qu'est-ce que vous retiendrez de cette journée ?
En tout cas, merci à Aurélie Aubert qui était donc en direct sur RMC. Quelle histoire ! Elle venait aux Jeux Paralympiques pour participer. Elle se retrouve médaillée d'or, médaillée paralympique, championne paralympique à la Boccia. Elle a eu également l'honneur d'être porte-drapeau pour la cérémonie de clôture. Et puis là, elle est donc récompensée. Une médaille du mérite qui a été délivrée par le président de la République. Belle histoire qu'on vous raconte sur RMC. Et la soirée n'est pas terminée puisqu'il y aura ensuite le show musical à l'Arc de Triomphe. Vous ne raterez rien grâce à nos équipes, notamment Cédric Chasseur et Clément Brossard. Dans 12 minutes, coup d'envoi de ce PSG-Brest, on retourne tout de même à Auxerre pour la fin de match entre Auxerre et Monaco. Avec une réaction auxerroise, il y a eu une grosse occasion pour la GIA, Fred Joly. Hein.
Oui, oui. Réaction.
Ouais, ouais.
Ah bon, non. Si tu veux.
Ben, tu t'es enflammé, Ben.
Je peux te le survendre.
Ah bon ?
Quelle frappe extraordinaire de Traoré qui est passée.
C'était pas une vraie occasion alors.
Il y a une frappe qui est passée au-dessus et le troisième but, voilà, qui est fait. voilà une vraie occasion. Et c'est le capitaine Zakaria qui tranquillement a pu marquer sur un corner. Voilà, une nouvelle fois la défense auxerroise arrêtée. Léon qui ne savait peut-être pas trop quoi faire. Et tranquillement, Zakaria qui est venu inscrire ce troisième but pour l'AS Monaco qui signe son deuxième but personnel depuis le début du championnat. 3-0, voilà, c'est fait. Il y a une frappe auxerroise, c'est vrai, elle était belle cette frappe. Elle était bien tentée de la part d'une des recrues auxerroises, Ahmed Traoré. Et le ballon est passé quand même au-dessus. Elle n'a même pas été touchée par Kuhn, le portier monégasque. Elle est passée au-dessus du but monégasque. Voilà, 3-0, nous allons arriver dans le temps additionnel. Je pense que ça va être le score, peut-être pas final, mais en tous les cas, ça va être vraiment très compliqué pour les Auxerrois qui ont du mal, vraiment du mal dans cette rencontre.
C'est vraiment un scénario parfait pour l'AS Monaco. En revanche, pour Auxerre, Christophe Pélissier sera certainement très énervé, Steve, parce que c'est peut-être même l'apathie de son équipe. Là, on le voit encore sur ce troisième but. Personne réagit sur la parade de Léon. Hein. Personne n'est là pour changer à dégager le ballon. Quoi.
Bah oui, il peut être en l'air.
C'est vrai que Léon fait une belle parade énervé sur ce coup-là. Ouais.
Voilà, il fait une bonne parade. Pour une fois, il ne la renvoie pas dans son but comme sur le premier corner. Mais en fait, si tu veux, il peut en être énervé de ses joueurs. Il peut aussi être énervé contre lui aussi.
Oui, bien sûr. Il peut se remettre en question.
Je sais qu'il ne fuit pas du tout ses responsabilités. Nouveau système de jeu. On a vu que ce système-là, bah, au final, t'étais énormément quand même en danger avec 5 derrière parce que tes joueurs de piston, ils n'ont pas été vraiment très tranquilles ce soir. Dans ton axe, t'as réussi quand même à te prendre pas mal de petites situations. Et puis, tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté.
Raison, donc en fait, quand t'es promu chez toi, c'est interdit.
Eh oui, en tout cas, c'est proscrit. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'après un retour de trêve internationale, donc t'as 10 jours de préparation et tu vois tes joueurs, ils sont amorphes, ils n'ont pas de jus.
Ouais.
Alors qu'en face, je dis pas qu'ils sont tous internationaux en face à Monaco, mais quand même, t'as quand même quelques internationaux.
Il y en a un paquet quand même.
Tu vois ce que je veux dire? Mais et ben là, tu vois des joueurs qui sont dynamiques, qui jouent quand même assez tranquillement. Ils ont pas été celui qui vient de marquer, Zakaria, qui pour moi fait un super match dans le milieu de terrain. À partir du moment où t'as un milieu de terrain qui fait un super match, tu te dis que son équipe elle a eu le contrôle du jeu. Et bon, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, et là on est inquiet parce qu'il y a un joueur monégasque au sol qui
s'est effondré tout seul. Hein. C'est sans doute une du super mal.
Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir le ralenti.
Ouais, il est tout seul. Il s'est mis. Alors je sais pas. Il y a peut-être eu un contact juste avant que la caméra se braque sur lui ou les yeux se braquent sur lui. Et on va revoir ça. Mais en tous les cas, il y a un joueur
il
au sol.
Il est avec les médecins du club. Hein, donc ils sont en train de le prendre en charge. On va voir ce qu'il a.
Je sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, c'est Camara. Il me semble. C'est Camara qui est au sol, qui reste au sol. Okay. L'arbitre aura 7 minutes de temps additionnel.
Et bah, tu sais quoi, Fred, on va se quitter. Vous allez retrouver d'ici quelques secondes Thibaut Giangrande pour l'after live autour du match entre le PSG et le Stade Brestois. Il me reste à te remercier, Fred. À remercier Steve Savidan qui était avec moi depuis 19h.
Merci Steve. Toujours un plaisir.
Et bah, pareil, plaisir partagé. Et dans un instant, l'after live avec Thibaut Giangrande et un petit nouveau dans la Dream Team RMC. Vous allez le découvrir, vous allez voir. Un nouveau consultant pour commenter ce match entre Parisiens et Brestois, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je vous laisse découvrir ça. D'ici 3 minutes, Monaco mène 3-0 à Auxerre. Il reste 5 minutes dans le temps additionnel. La fin de match dans une seconde. Bonne soirée, ciao.
Salut, c'est Gilbert Bribois de l'After Foot sur RMC. Retrouvez-moi avec Daniel Riolo le 11 octobre prochain à la salle Playel à Paris pour l'After Remonte le temps. L'After sur scène, notre nouveau spectacle garanti ni vu ni entendu. Réservation sur afterfootlespectacle.fr avec RMC bien sûr.